fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
Aujourd'hui, Emmanuel Macron s'est rendu à Chypre. Derrière cette visite se dessine une rhétorique très dure contre l'Iran, accusé d'escalade irresponsable au Moyen-Orient. Avec des navires de guerre français en Méditerranée et une posture de fermeté, Macron cherche à incarner le leader européen intraitable. Certains y voient aussi une stratégie électorale risquée qui pourrait encore aggraver les tensions régionales. Macron cherche-t-il à rentrer dans l'histoire comme un chef de guerre? Se voit-il comme une sorte de Napoléon? Macron a-t-il intérêt à ce que la guerre dégénère afin de garder le pouvoir? À ces questions répondront Charbel Lakis, qui a été casque bleu au Moyen-Orient, Laurent Michelon, spécialiste de la Chine, Jean-Michel Vernochet, journaliste, et Farid Demes de Bas, éditorialiste de Nature Géopolitique Profonde, générique.
Nous sommes en guerre.
La guerre mondiale a commencé.
Ya, il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, c'est Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de Emmanuel Macron, chef de guerre, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Elle voit en lui, c'est vrai, un Napoléon. Un Napoléon Bonaparte, nous pas trop. Hein. Donc on va en parler avec nos amis ici présents, Laurent Michelon, Jean-Michel Vernochet, Farid Demes de Bas et Charbel Lakis. Mais avant ça, n'oubliez pas, adhérez au club Géopolitique Profonde, les plus grands, les meilleurs, les seuls, les unis qui sont le maître du Logos, Jean-Michel Vernochet, Laurent Michelon, Laurent Ozon, Xavier Moreau, Sylvain Ferreira, etc., etc. Vous cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuits et vous recevrez la carte gold. Voilà, elle est là, entre mes mains. Cette carte-là qui vous permettra de recevoir des réductions, d'être membre du club Géopolitique Profonde. Et puis là, l'annonce. Je l'ai fait cette annonce, enfin. Le 27 mars au soir, la grande soirée Géopolitique Profonde, la soirée des 400 000 abonnés. Il y aura à boire, à manger, de la chanson, des conférences, il y aura de tout. Vous allez pouvoir faire la fête et aussi réfléchir. Donc, pour vous inscrire, les places sont limitées. Vous cliquez sur le lien ci-dessous et vous venez vous inscrire. Alors, cher Laurent, là, tu viens là de, directement, je sais, de Chine. Oui. Mais on va quand même, du coup, mettre tout de suite les pieds dans le plat. Qu'est-ce que tu as pensé, là, de notre bon, de l'extérieur, tiens, de notre bon Macron, chef de guerre, général Patton, tiens. Non ?
Non, mais c'est inquiétant parce que la France n'a absolument aucun intérêt à se mettre comme ça en avant dans une région, dans un conflit qui n'est pas le sien. On a très bien vu que c'est Israël et les États-Unis qui sont à la manœuvre. L'Iran réplique comme il se doit. Et si je vais au-delà de mes considérations personnelles, je regarde ça pas toujours par l'angle de la Chine. La Chine a a rappelé à tout le monde qu'il était important d'abord, premièrement, d'avoir un cessez-le-feu immédiat, étant donné l'ampleur des combats actuellement, et un retour à la table des négociations. Mais on voit que c'est la Chine, avec la Russie, est un petit peu seule à réclamer un cessez-le-feu, un retour à la paix. On voit qu'en Occident, il y a une espèce d'embrasement, une espèce d'excitation guerrière, comme ça, avec chacun qui veut jouer le rôle du chef de guerre. Un coup, c'est Trump, un coup, c'est Netanyahou. Alors Netanyahou, il se fait discret là, depuis quelques jours. Mais maintenant, on a Macron qui veut envoyer une dizaine de bateaux dans le détroit d'Ormuz pour libérer le détroit d'Ormuz. On se demande comment il va faire, parce qu'est-ce qu'il va déclarer la guerre à l'Iran, ça semble complètement surréaliste vu de Paris et vu de Pékin. Mais voilà, bah, on se retrouve une fois de plus dans une situation complète de vassal aux États-Unis, toujours avec une tentative de la part de Macron de jouer la carte de la souveraineté, de la puissance militaire, comme tu disais, d'une certaine dimension napoléonienne là-dedans. Mais en fait, c'est ni plus ni moins qu'une démonstration différente de la vassalisation. Vassalisation par rapport aux États-Unis, par rapport à Israël. Et puis ça va être un accompagnement des pétromonarchies qui elles aussi ont été admonestées par Lavrov hein, aujourd'hui qui s'est étonné du fait que aucune d'entre elles n'avait condamné le meurtre par exemple de 170 filles dans une école iranienne ou ni l'attaque comme ça préemptive qui a été faite sur l'Iran. Et donc voilà, la France joue une fois de plus le mauvais rôle. Est-ce qu'on a la capacité, parce qu'on connaît l'état du Charles de Gaulle, est-ce qu'on a la capacité de faire vraiment une démonstration de force? Je pense que c'est encore là une histoire de communication de la part de Macron. Enfin, ça pourrait quand même mener à des morts dans l'armée française, et c'est moi, enfin, en tant que Français, c'est ce qui m'importe le plus, quoi.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Laurent. Dites-moi, Jean-Michel, Macron à Chypre, qu'est-ce qu'il veut faire là? Il veut être le leader de l'Europe, comme il l'a écrit à Epstein?
Comme mon voisin vient de le dire, Macron adore être en guerre. Ça le rehausse, ça lui met des talonnettes. On pourrait peut-être l'appeler Nabo Léon le Petit. Nabo Léon, puisque c'est quand même un Bonaparte au très 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 petit pied. Oui, sur les 22 navires de guerre que la France possède, 19 sont partis pour la Méditerranée orientale. C'est tout cela est dérisoire, parce que il faut savoir que si l'Iran a frappé Chypre, il n'a pas frappé l'Union européenne, mais la base anglaise, qui est extraterritorial, c'est un territoire strictement britannique, et n'a pas agressé de quelque façon que ce soit cette Union européenne qui a du mal, qui n'a plus les moyens de payer les 90 milliards d'euros qu'elle a promis à l'Ukraine. Je sais pas, on s'est embarqué déjà dans cette galère ukrainienne, nous sommes devenus de facto co-belligérants. Va-t-on recommencer la même imbécilité, il n'y a pas d'autre terme, avec l'Iran? L'Iran ne nous a pas agressés. Alors on nous répète, et je termine là-dessus, hein, pour laisser la place aux camarades, que l'Iran a tué des Français. Alors c'est en 83, l'immeuble de Raqqa. Mais on sait que le Hezbollah venait à peine de naître, donc le Hezbollah, et que le fameux camionnette piégé qui aurait fait sauter le Raqqa est imaginaire, c'est un mythe, et que de toute évidence, c'était une attaque, comme on dit aujourd'hui, sous faux drapeau, sous fausse bannière, sous faux pavillon, pour chasser les Français qui commençaient à gêner très très fortement. Là, donc l'Iran, a priori, n'a jamais perpétré de massacre de Français, mais c'est ce qu'on nous raconte. On n'a rien trouvé d'autre tous les soirs que Dieu fait.
Mais l'attitude de Macron là, c'est une envie de se montrer à l'international, comme quoi il dirigerait quelque chose, mais c'est de la communication, non ?
Disons que les images sont tristes, elles sont pathétiques. J'ai l'impression Macron à Chypre, Macron sur le Charles de Gaulle, bientôt Macron chez la pédicure, Macron à la plage. Bon, tout ça n'a pas de sens, dans le sens où il n'a pas, comme qui dirait, la capacité de ses prétentions. Il se voit comme chef de guerre d'une armée qui est complètement à bout de souffle. Son entrée dans le conflit russo-ukrainien fait qu'effectivement, l'Europe derrière faiblit de jour en jour. Là, on voit que les réserves de munitions, c'est carrément c'est un cirque. Hein, on voit qu'effectivement, ils sont en pleine ramasse au niveau du conflit américo-israélo-israélien. Iranien, et que même l'Ukraine se paye le luxe de se foutre de la tête, pour ne pas dire autre chose, de ses amis américains, en leur disant, si vous voulez, on va vous donner quelques conseils sur les drones et comment essayer d'en intercepter au maximum. Non, Macron, derrière, c'est franchement, j'ai l'impression qu'il ne peut pas exister nationalement. Il se voit comme chef de guerre à l'international, mais d'un petit continent, d'un petit pays, maintenant, qui est devenu petit. Le sud global n'a plus rien à craindre maintenant des puissances, enfin, ex-puissances occidentales. Faut pas avoir peur de le dire, la France est quand même devenue un pays sous-développé.
Il veut une forme de leadership parce qu'il pense être président européen.
C'est de la com. C'est vrai que le leadership au niveau de l'armée, se valait avec la Grande-Bretagne. Maintenant, ça a changé. Il se voit en tant que leader de l'Europe face à un chancelier qui essaye de prendre le pas, mais qui est plus à la botte d'Israël qu'autre chose, notamment sur ses positions. Bah, bref, tout ça, en fait, c'est vrai que ça sent l'hypocrisie. Il essaye d'exister à côté des États-Unis. À côté d'Israël, et en fait, derrière, effectivement, on sent le double discours, on sent le deux poids, deux mesures. Vous aviez dit tout à l'heure, une école avec presque 180 victimes, la plupart des jeunes filles, des écolières, et ça, pas un mot, ou peut-être quelques lignes comme ça, aucune condamnation ferme et directe, et ça, c'est pas normal. C'est-à-dire, hors cadre totalement du droit international, on acquiesce, on se couche, et on continue comme ça la mascarade. C'est anormal. Ce président ne représente plus la France, et la France maintenant est totalement en décrépitude. Je vois mal l'avenir avec tout ce qui se présente face à nous.
Qu'est-ce que t'en penses, Charbel ? C'est-à-dire que Macron, il met de côté la politique nationale pour se montrer dans son meilleur jour international. Peut-être qu'il y a une partie de son électorat qui veut aussi le voir comme ça.
Bah, qu'ils y aillent. Non mais attends, moi je vais te parler cash. Hein. C'est comme à l'époque quand on nous a expliqué qu'il fallait envoyer des soldats en Ukraine. Il y a 18 600 000 personnes qui ont voté pour lui, il y a des brigades internationales, feu, allez-y les gars. Non mais les gens, ils parlent de la guerre comme si c'était, tu vois...
Toi, t'es casque bleu, faut le dire.
Non, non, attends, j'ai été soldat français.
Oui, soldat français.
Et on a eu une mission à Nakoura, au sud Liban, en 2001, à cheval entre 2001 et 2002. Enfin, je veux dire, juste après le départ des Israéliens. Donc, la guerre, c'est pas ce que, comme tu dis, Apolline de Malherbe raconte sur BFM TV et RMC. Et tu parles d'Apolline... Mais ce qu'il fait Macron aujourd'hui, je ne sais même pas s'il se rend compte lui-même. On a l'impression que c'est que du brouillon ce qu'il fait ce mec-là. Remonter au discours sur l'île longue. Non mais qu'est-ce que c'est que cette posture? Mais qui a cru une seule... Mais j'ai regardé la tête des militaires qu'il y avait autour de lui. Je suis persuadé, parce qu'il faut applaudir quand vous recevez un ordre, c'est comme ça. Mais même les mecs qui étaient là, mais ils ne croyaient pas une seule seconde. Enfin, je veux dire, c'est pas un chef de guerre. Il n'a rien à voir avec un vrai chef
mais
de
il
guerre.
Il se prend pour un chef de guerre.
Il se prend pour un chef de guerre. C'est pas ce que je dis. Mais c'est... déjà, le discours sur l'île longue, c'était du grand n'importe quoi. Tout le monde. Et les partis politiques, ils ont tous fait AV. Ils se sont tous couchés comme des carpettes devant lui. Et ensuite, il nous annonce ça. Et entre-temps, il a fait son discours, tu sais, son discours le lendemain, là, de l'île longue. Et Roselyne Bachelot était en extase devant lui. Les autres, parce que j'ai écouté Roselyne, elle a dit que l'unité du pays, on a senti qu'il avait reconstruit, je sais plus comment elle a dit ça, l'unité du pays. Mais l'unité du pays dans quoi ? Redescendez sur terre, les mecs. C'est pas les partis politiques. Alors si on suit aux partis politiques, oui, eux, ils étaient tous unis derrière leur président. Mais faites un sondage dans la population et demandez-leur si les discours les ont convaincus. Mais bien sûr que non. Personne n'a envie de voir son gosse aller servir de char à canon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mais qu'est-ce que tu vas aller foutre dans le détroit d'Ormuz ? Poutine, il vient de parler aujourd'hui, là. Je sais pas si tu as vu le discours de Poutine. Enfin, je veux dire, on est... qu'il y aille Macron ou pas, de toute façon, tout ce qu'il va récolter, ça va être des pauvres soldats français qui vont se faire tuer. Parce qu'on va se prendre des missiles, c'est clair et net. Je sais pas si vous avez entendu le ministre des Affaires étrangères iranien aujourd'hui, Arakji, je crois. Non, Larijani, Il a dit, de toute façon, tant qu'il y aura la guerre, il n'y aura aucune sécurité possible dans le détroit d'Ormuz. Qu'est-ce que ça veut dire en iranien? Ça veut dire que tant qu'il y a la guerre, tant que vous arrêtez pas de nous tirer dessus, le premier qui va passer, on va le dézinguer. À moins que ça soit un russe ou un chinois. Mais on va le déglinguer. Donc ça va se passer comme ça. Et donc, Macron, vous avez pas remarqué qu'il y allait tout seul? Personne n'a dit qu'on va y aller, hein, les Européens. Là.
Non, il y a Starmer, mais non. Il n'est pas dans le...
Non, mais Starmer, il s'est fait calmer par Trump. Il a dit, j'ai pas besoin de toi, ton attitude, on en reparlera plus tard. Donc on s'en souviendra, c'est exactement ce qu'il lui a dit. Il y va tout seul. Merz, il est aux abonnés absents. Ursula von der Leyen, museau, rien du tout. Elle nous a parlé de ces 800 milliards, là, aujourd'hui. Et tout le reste, mais ils sont aux abonnés absents.
Mais ce qui est inquiétant, je trouve, c'est que au départ, avant que cette opération commence, on avait vu le porte-avions américain qui a fait une escale en Grèce, parce qu'apparemment les soldats auraient saboté les toilettes parce qu'ils ne voulaient pas aller combattre. Voilà. Et puis maintenant, résultat des courses, c'est les Français qui y vont. Donc est-ce que finalement, il n'y a pas un bateau français qui va jouer le rôle en fait de la cible?
Oui, c'est ça.
C'est ça. On va être le fusible.
Comment ça, le fusible?
Ça aurait dû être un fusible.
Mais parce qu'ils vont nous envoyer au casse-pipe. Mais parce que Trump va vouloir se venger de Macron, voilà. C'est ça qu'il faut comprendre.
Alors, il y a un bateau français qui va couler et ça va être l'occasion de faire des escalades nucléaires.
Je rebondis là-dessus.
Vas-y, Jean-Michel.
C'est tout à fait bien vu parce qu'ils sont en train, au 11e jour de la guerre, c'est en train de partir en couille autant qu'il est possible. Il n'y a plus de munitions, il n'y a plus d'intercepteurs. Ils sont dans une impasse. C'est un piège diabolique. Donc, ce que l'on peut craindre, c'est qu'il y ait une attaque sous faux pavillon, sous faux drapeau, non pas contre l'Iran, mais contre, effectivement.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNC 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Un bâtiment comme pour faire entrer la France en guerre. Et l'OTAN étant ce qu'il est, avec le fameux article 5, c'est pour essayer d'entraîner l'Europe. C'est très possible, puisqu'on sait que, par exemple, l'attaque sur Chypre, m'arrête ici, l'attaque sur Chypre est visiblement une attaque sous faux pavillon, une provocation.
De la part de qui?
De la part d'Israël.
Oui. D'accord.
Et peut-être même aussi l'attaque de le drone sur l'Azerbaïdjan.
Aussi l'ambassade américaine en Arabie Saoudite, il semblerait que ce soit fait
un champ pétrolifère saoudien.
Alors attendez, pourquoi sous faux drapeau?
À partir du moment où l'Iran déjà communique sur le fait qu'ils n'ont pas envoyé de pourquoi ils se cacheraient? Ils savent exactement comment communiquer et quelle cible viser. Et ils le disent déjà. Ils disent, voilà, on a visé tel pays. Par contre, là où on n'a pas visé, c'est Chypre. Et c'est là aussi... Voilà, donc faites attention, et on le sait pertinemment dans l'histoire, qu'il y a énormément d'attaques comme ça sous faux drapeau pour déclencher une guerre qui n'est pas forcément voulue. Et effectivement, là, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que le seul vrai chef d'État digne de ce nom en Europe, c'est Pedro Sanchez, qui a su vraiment préserver son pays et de l'humiliation et de se dire « je ne vais pas rentrer dans cette mascarade hors du droit international ». Macron, lui, met deux pieds dedans, il nous ramène le Charles de Gaulle. Il nous ramène le Charles de Gaulle, ben voilà, pour faire quoi? La police
des droits d'Ormuz.
Il va couler ce bateau, c'est pas possible.
Ben, c'est peut-être pour ça il est hors d'âge.
Ouais, il peut couler ce bateau?
Bien sûr.
Charbel.
Bien sûr qu'il peut couler. Bien sûr, il se fait torpiller, il coule.
Mais qui pourrait le torpiller?
Écoutez le...
Attends, le Charles de Gaulle, c'est un fleuron, paraît-il.
Oui, bien sûr.
C'est pas un fleuron?
C'était un fleuron.
C'était un fleuron quand?
C'était un fleuron il y a peut-être une dizaine d'années. D'accord. 30 ans, peut-être.
Et aujourd'hui, ça ne l'est plus.
Mais aujourd'hui, il est dépassé, tout le monde le sait. D'ailleurs, il n'a pas eu une panne ou deux, là, en partant en Méditerranée. Alors, bien sûr, BFM n'en ont pas parlé. Non, mais tu disais tout à l'heure, là, enfin, à l'instant, que les Iraniens, ils disent ce qu'ils font. Mais il faut écouter, encore une fois, Larry Janis, ce qu'il a dit. Il a dit, tant qu'il y aura la guerre, il n'y aura aucune sécurité dans le détroit d'Ormuz. Donc, c'est
je ne parlais pas du détroit d'Ormuz. Je parlais des cibles, par exemple, orientale. Comme Chypre.
Oui, d'accord. Mais là, moi, je reviens sur Macron. Macron, il a dit, je vais aller... La France travaille, c'est exactement ce qu'il a dit, travaille sur un plan opérationnel pour sécuriser le détroit d'Ormuz.
Il va sécuriser rien du tout, il n'en a pas les moyens.
Et donc, mais il n'en a pas les moyens. Donc, avec le peu de moyens qu'il a envoyé, d'ailleurs, il nous reste trois bateaux qui sont inquiets, dont un pétrolier ravitailleur, là, et je crois qu'ils sont en révision, en maintenance. Mais ce qu'il enverra là-bas se fera dézinguer par les Iraniens, ou peut-être sous faux drapeau. Mais moi, je pense plus que les Iraniens vont montrer leur crédibilité, encore une fois, en dézinguant quelque chose.
Ça peut se passer comme ça, Laurent?
Oui, ça, je pense effectivement l'attaque sur Chypre, les Chypriotes ont dit que le drone qui avait bombardé la base britannique ne venait pas d'Iran. Donc d'où est-ce qu'il vient ? Bon, on a une petite idée, ça commence aussi par I.
C'est tombé du ciel.
Voilà. Mais je pense qu'effectivement la France va peut-être jouer le rôle du fusible, du mouton sacrificiel, en fait, un bateau, alors le Charles de Gaulle ou un autre, puisqu'on en envoie une dizaine.
Bah, attendez, mais si le Charles de Gaulle coule, ce serait quand même.
Ce Charles de Gaulle ou un autre,
bah, il faut un électrochoc pour déclencher la guerre.
Alors ça permettrait soit de déclencher la guerre, soit pour les États-Unis de jouer le rôle, en fait, de la désescalade en disant bon, les Français ont été sacrifiés. Et en fait, ça permettrait une désescalade pour les États-Unis, parce que je voudrais apporter une vision un peu plus large de la question. C'est en fait le séquençage stratégique de tout ce qui s'est passé ces derniers mois. C'est-à-dire, on a commencé d'abord par une espèce de coup d'État cosplay en Venezuela, où en fait on kidnappe. C'est même pas un changement de régime, en fait. C'est une mise au pas d'un régime au Venezuela. Là, on est en Iran, c'est le gros morceau avec ce qui se passe en ce moment, qui pourrait avoir une escalade. Peut-être même nucléaire, ou en tout cas on parle d'un potentiel d'une bombe sale ou quelque chose comme ça. Je pense que pour les États-Unis, pour Donald Trump, l'idée d'une désescalade maintenant, en réclamant la victoire, serait quelque chose de tout à fait séduisant, parce qu'il y a les midterms qui arrivent.
Capitulation sans condition de l'Iran.
Mais ensuite, voilà, il irait sur son réseau social en disant « ça y est, on a gagné, les Français ont coulé, on a négocié, j'ai fait un deal avec les Iraniens, et on arrête ». Et donc, lui, il n'a pas perdu de soldats, donc il peut continuer les élections. Et ensuite, si, pour renforcer ça...
Il a perdu 6.
Oui, enfin soi-disant 6, officiellement, mais apparemment, c'est des centaines. Hein. Voilà. Mais surtout, ce qui va se passer, moi, je serai à la place de Cuba, je m'inquiéterais, parce que la prochaine, dans ce séquençage stratégique, le Venezuela, c'est, on va dire, la mise en bouche pour voir un peu comment réagit l'électorat. L'Iran, c'est en fait la pièce maîtresse, mais on voit que c'est un échec. C'est donc peut-être encore trop tôt pour Israël et les États-Unis pour réussir. Donc on descend et on refait une petite victoire rapide, pas chère, à Cuba. Voilà, donc c'est comme ça que je vois ce séquençage.
Cher Jean-Michel, ça peut dégénérer. Parce que tu as parlé de Troisième Guerre mondiale, là, à l'instant.
Rappelons que les opérations sous fond drapeau parfois échouent. En 67, il y a eu l'attaque de l'USS Liberty. Il y a eu une trentaine de matelots américains qui ont été tués. Le bâtiment, qui était un bâtiment d'observation, de repérage, a été attaqué par la chasse israélienne. L'attaque a duré plus de 3 heures. Et il n'y a jamais eu d'excuses de la part d'Israël. Mais il s'agissait d'impliquer l'Égypte pour élargir la guerre, la renforcer, etc. Ça n'a pas marché. Il y a eu aussi, on va pas revenir sur l'affaire Yalon, donc il y a des gens qui ne reculent devant rien, qui n'ont peur de rien. Imaginez, effectivement, si le Charles de Gaulle allait par le fond, eh bien, l'Union européenne serait bien obligée de se dresser, comme on parlait des attaques. Provocation, on n'a pas mentionné en Arabie Saoudite tel champ pétrolifère ou telles installations. Voilà, d'Aramco, il est vraisemblable que là aussi on essaye d'allumer la mèche. Or les gens du Golfe, les Émiratis, les Saoudiens, les Omanais, etc., ils vont à reculons. Ils ont compris qu'ils avaient plus.
Il y a pas un qui tire, hein.
D'abord, ils ont découvert qu'ils n'étaient pas protégés par les Américains.
Monsieur.
Les Américains n'ayant plus de munitions. Hein, là, il y a des avions, je m'arrête ici, il y a des avions cargo qui arrivent du Japon, qui arrivent de Corée, qui arrivent de partout à travers la planète pour apporter les munitions qui font gravement défaut. Donc, si la guerre ne s'arrête pas maintenant, et là, Monsieur Trump est dans une impasse, ce sont les marchés. Aujourd'hui, on est à 115 dollars
dans la nuit, là.
Le baril.
Oui, mais il peut pas arrêter comme ça.
Mais non, justement, il faut qu'il s'arrache, qu'il s'extrait du piège. Mais comment
s'en extraire,
mis lui-même.
Vous avez pas remarqué que les pays du Golfe,
Farid, comment s'en extraire, Farid.
Sachant que c'est le roi de la pirouette et le roi de l'annonce, on va dire, d'une autre dimension. Rappelez-vous, hein, comment il racontait, il disait, c'est une réalité alternative. Donc, et ça, un président. De toute façon, moi, dans ma vie, j'ai jamais vu un président avec très peu de vocabulaire. J'ai l'impression, quand il parle...
Oui, bon, c'est les Américains, après.
Ouais, ouais. Non, mais non, on a eu quand même...
George Bush, c'était comme ça. Hein.
On a eu des présidents un petit peu plus éloquents. Non, mais là, effectivement, Ça, c'est très simple, hein. Sa base, comme tu l'as dit, c'est américain, donc bon, il pourra leur retourner le cerveau comme il veut, mais derrière...
How to have fun, anytime, anywhere. Step 1, go to ChumbaCasino.com.
ChumbaCasino.com, got it.
Step 2, collect your welcome bonus.
Come to Papa, welcome bonus.
Step 3, play hundreds of casino-style games for free.
That's a lot of games, all for free?
Step 4, unleash your excitement.
Woohoo!
Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus terms and conditions apply.
Concrètement, sur le champ politique, comment il pourra s'en extraire? Peut-être, comme on a parlé tout à l'heure, de faire sauter le plomb français. Peut-être. Effectivement, ça pourrait être une solution. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il va, il va faire en sorte de se désengager vis-à-vis d'Israël? Parce que, à mon avis, ça risquerait d'être une potentielle porte de sortie pour Trump. Mais je vois pas cette solution-là pointer le bout de son nez. Donc, à l'heure actuelle, honnêtement, il s'est mis dans le piège lui-même. Il a cru qu'effectivement, ça allait être un coup à la Maduro... claquant des doigts comme ça, il allait finir cette histoire, mais il ne savait pas que l'Iran c'était un grand pays, qu'ils avaient préparé effectivement cette attaque et surtout cette contre-attaque. Et maintenant, comme qui dirait, paraît-il,
les services de renseignement ne travaillent pas bien, ou au contraire que Trump est fondamentalement désinformé.
Non, à mon avis, parce que ce qu'on a de en off, c'est que effectivement, il n'écoute personne. Il est dans une autre dimension où pour lui, les États-Unis sont au-dessus de tout, etc. Là, la démonstration de force de l'Iran, quand même, vis-à-vis du monde entier, ça a été une leçon incroyable. Elle a, on va dire, tirée dans tous les sens, elle a fait mouche un petit peu partout. Les services de communication, maintenant, les États-Unis n'ont plus du tout un radar qui fonctionne dans la région. Les appareils sont totalement aveugles sur place. Et ça, c'est un coup de génie. Et ça, ils ne voyaient pas l'Iran
c'est
faire
les
cela.
C'est les Russes.
Peu importe, bah, bien sûr. Peu importe qui fait ça. Disons que, même si c'est les Russes ou les Chinois, que l'Iran, on va dire, que a réussi à faire mouche sur ce coup-là. C'est-à-dire que maintenant, c'est eux qui ont les cartes en main et c'est eux les maîtres du temps. Et là, récemment, ils sont en train de chouiner en disant « Oui, il faudrait peut-être penser à un cessez-le-feu ». L'Iran, maintenant, les cessez-le-feu, on leur a déjà fait le coup avec la guerre des 12 jours, où ils s'en foutent un petit peu un accord signé ce jour-là, il n'y a que ceux qui y croient, ouais, qui y sont attachés. Mais force est de constater que ni les États-Unis ni Israël ne tiennent, on va dire, leur parole. Donc, ce que je vois comme sortie pour Trump, elle est très compliquée à l'heure actuelle.
Elle est impossible.
Pas impossible, très compliqué, là, mais tout est possible.
Qu'est-ce que t'en penses, Charbel? Elle est possible, la tortille?
Je suis d'accord avec toi, Farid, parce que là, clairement, mais très clairement, hein, moi, je regarde les attitudes des alliés, des...
L'attitude de la France, du coup, tu regardes. Hein.
Quand je regarde l'attitude des Chinois et l'attitude de Poutine, quand Khamenei a été tué, non, mais vous avez vu les déclarations? On avait l'impression que le mec, bon, c'est cynique, hein. C'est pas conforme au droit international, c'est pas bien ce que t'as fait, Donald.
Et alors? Qu'est-ce que t'en conclues?
Quand je faisais preuve d'un grand complotisme l'autre fois, quand je te parlais de la rencontre à Anchorage, en Alaska, mais je suis persuadé que ces mecs-là, quand ils se sont rencontrés et se sont partagés le gâteau, tout le monde les prend pour des fous, pour des ceci, pour des cela. Mais je suis persuadé que c'est
qui,
ça.
Quoi,
entre
la
Trump
Chine,
et Poutine. Garde tes positions en Ukraine. Moi, je fais un retour sur investissement. Je veux une partie des terres rares. Parce que mon prédécesseur vous a lâché, d'après lui, hein, 300 milliards. Les deux Amériques, est-ce qu'il s'y passe? Tu me fous la paix, tu me laisses tranquille. Le Groenland, j'en ai rien à foutre du Groenland. On va dire aux Européens que je vais sauter sur le Groenland. Ça va bien les occuper pendant ce temps-là. En attendant, ils sont tous tombés dans le panneau. Augmentez vos budgets de défense, ils ont tous augmenté les budgets de défense, et ils vont acheter américains. Et toi, tu vas continuer à faire tourner ton économie de guerre, tu vas vendre ton pétrole, et puis on trouve une solution avec l'Iran pour en terminer avec la République. C'est ce que j'imagine. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Attends, laisse-moi finir.
Vas-y.
Pour en terminer avec la République des Mollahs, parce qu'il y a des gisements de gaz naturel, et ça, personne n'en parle, au large du Liban, qui est un deuxième Qatar.
Mais attends.
Mais ils ne veulent pas exploiter... Depuis des décennies, ils ne veulent pas l'exploiter depuis le président Emile Aoun, qui était largement avant le président Aoun et avant le premier président Aoun. Donc, et ils ne voulaient pas les exploiter parce qu'ils avaient peur que le Hezbollah mette la main dessus. Et ça, tout le monde le sait, sauf ici, on n'en parle pas.
Tu ne crois pas dans ce scénario, Farid ?
Non, je ne pense pas, parce que le service de renseignement, sur ce coup-là, en tout cas, a très mal joué, sachant que Trump se basait soi-disant sur la rue pour faire renverser le régime des Mollahs, comme ils disent. Bah, ils ont remis une personne, le fils, à la place du père, qui maintenant a une excuse supplémentaire, et toute une génération à suivre auront encore plus de haine vis-à-vis des États-Unis. Il faut le savoir que la haine des États-Unis venait, la nouvelle génération ne l'avait pas forcément, parce qu'ils n'avaient pas vécu dans leur chair ce genre de d'attaque. Là, ils l'ont. Donc ça leur donne, comme dans leur narratif, un resserrement sur le nationalisme iranien.
Pour dire qu'ils ont la haine des États-Unis ?
Non. C'est le postulat qu'on pouvait imaginer à partir de 79.
Là, avec le fils de Khamenei, qui est encore plus radical que son
père. Ils se sont fait bombarder, des jeunes filles assassinées. On a tué son père, sa femme.
Sa femme, son fils.
Bah, bien sûr.
Ou sa fille.
Non, mais je parle.
Donc,
je parle
non, non, mais je du parle, peuple.
Jean-Michel.
Je te parle en général du peuple iranien.
Mais avec ce qui se passe, tu penses que le fait de se prendre des bombes
au premier degré.
Attendez, Jean-Michel rebondit.
La première strate, c'est pas mal vu, c'est plutôt bien vu qu'il y ait des accords Trump-Poutine. Mais en politique, en diplomatie, il y a un truc qui s'appelle le double langage, voire le triple langage. Ce que fait ma main droite, la main gauche l'ignore. Je te donne un exemple. Je ne sais pas combien il y a eu de F-16 qui ont été démolis en Iran. Il y en a un certain nombre. Il y en a encore un ici, là. Il y a les trois qui sont tombés au Koweït. Et alors là, on nous baratine, puisqu'on nous a dit que c'est un tir ami, c'est-à-dire les intercepteurs koweïtiens, américano-koweïtiens, qui ont descendu ces trois avions, que l'on voit descendre. C'est impossible, parce qu'il y a des systèmes cryptés extrêmement puissants qui permettent d'identifier la signature des avions. Mmh. Donc c'est impossible. Là, il y a une thèse qui veut que, en fait, aux commandes des avions iraniens, aujourd'hui, se trouveraient des pilotes russes. Parce que ça ne se forme pas...
Bah c'est possible.
Ça ne se forme pas comme ça, un pilote. On passe pas du... C'est pas comme une bagnole.
Bien évidemment.
Il y a ce qu'on appelle la mémoire musculaire et autres. Il faut des... Ça va très vite. Et donc, impossibilité que ce soit des pilotes iraniens. Donc, ce qui veut dire que la Russie est engagée, et justement, Trump se plaint amèrement que l'acquisition des cibles se fasse à travers ou par le truchement des systèmes satellitaires, aussi bien chinois que
russes. Est-ce que la Chine pourrait s'engager, Charles Laurent ?
Elle est déjà engagée, mais elle n'est pas engagée militairement comme certains médias souhaitent le dire. Elle est engagée parce que, effectivement, comme dit Jean-Michel, elle a mis à sa disposition. À la disposition de l'Iran, son système de satellite Beidou, qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus puissant que le GPS. Donc c'est ce qui lui permet qui permet aux missiles d'avoir cette précision qu'on a vu pendant les frappes dans toute la région. Elle a mis aussi à disposition des systèmes de radar. Et ensuite, on se rappelle qu'elle a aidé l'Iran à lutter contre la révolution de couleur qui a eu lieu il y a un mois. Parce que là, il y a eu la guerre, mais avant, il y a eu une tentative de révolution de couleur. Et ça, c'est les Chinois qui, justement, par la mise à disposition d'un certain nombre de radars, ont permis de démanteler tout le système Starlink qui était utilisé par, les terroristes les agitateurs. La Russie aussi, effectivement, en a fourni. Donc la Chine est engagée, au niveau du matériel. Elle a aussi un énorme effort diplomatique qui est derrière l'Iran depuis très longtemps. Elle soutient l'Iran et la position de l'Iran. Et là, elle a déclaré, le ministère des Affaires étrangères aujourd'hui a encore déclaré que la responsabilité était évidemment du côté israélo-américain et anglais et qu'il fallait éviter l'escalade et retourner aux Nations Unies. Mais ça, c'est quelque chose qui est de moins en moins entendu. Le droit international, comme tu disais, est mort.
Surtout quand on a rien à faire, en fait.
Voilà, il est mort. Donc, la Chine, elle campe sur la position du multilatéralisme, du respect du droit international. Mais c'est vrai qu'elle est un petit peu...
Merci à toi, cher Laurent. Merci à vous quatre. On va passer à la seconde partie. Mais avant ça, les petites annonces.
Votre masque.
Tous les trois mois, une nouvelle loi vient détruire petit à petit vos libertés individuelles. Très prochainement, vous aurez le pass carbone, la surveillance généralisée sur le moindre de vos mouvements et la fin de la propriété privée. Si vous ne voulez pas faire partie de ce futur-là, il est encore possible d'en sortir. Géopolitique Profonde a travaillé sur ce nouveau protocole pour assurer votre protection personnelle et patrimoniale et vous assurer d'avoir toujours un coup d'avance pour être prêt avant qu'il ne soit trop tard. Cliquez sur le premier lien en description pour découvrir la stratégie confidentielle de Géopolitique Profonde.
Merci à vous d'être si nombreux, 3500 personnes en direct. N'hésitez pas à adhérer au club Géopolitique Profonde. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. 7 jours d'essai gratuit. Vous deviendrez membre avec Jean-Michel Vernochet, Laurent Michelon, qui sont membres et qui écrivent déjà. Le maître du Logos, bien entendu. Sylvain Ferreira, Xavier Moreau, etc. La carte de club, du membre de club, vous la recevrez aussi dans votre boîte aux lettres après 7 jours. Vous aurez des réductions. Et dernière annonce. Le 27 mars, le fameux 27 mars, la grande soirée des 400 000 abonnés. Bon, on a un peu augmenté depuis, on est quasiment à 430 000. Et voilà, donc 400 000 abonnés, on le fait ce 27 mars. On avait fait l'année dernière les 300 000, l'année d'avant les 200 000. Donc là, vous êtes vraiment tous invités. Vous cliquez sur le lien ci-dessous et vous vous inscrivez. Vous verrez... quasiment tous les intervenants que vous aimez. Donc voilà, vous cliquez ci-dessous. Allez-y vite parce que les places sont limitées. C'est pas très grand les théâtres parisiens. Ou alors quand c'est très grand, c'est très très cher. Donc vraiment, allez-y, dépêchez-vous. Charbel, on a parlé des Américains, des Russes, des Chinois, des Israéliens. Et pourtant, la France essaie d'exister. Est-ce qu'elle existe, là? Est-ce que Macron existe?
Bien sûr que non, qu'elle n'existe pas. Personne ne le prend au sérieux. Ils s'en foutent, c'est pour ça qu'ils servent de lui comme un pion.
Mais par contre...
Il appelle...
Oui, peut-être, mais on a fait des reportages avec Farid, et puis les gens, ils étaient très contents. Ils disaient, ah, quand même, notre président...
Gens, c'est pas eux qui prennent les décisions. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qu'on va envoyer là-bas, et qui risquent d'y laisser leur peau. C'est ça qui m'intéresse. Que pense... Jean-Robert, dans les rues de Paris, je m'en fous un peu, en fait. Tu vois, moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Quel résultat? Parce que les postures d'un président de la République, c'est le chef des armées. Quand il prend une décision, ça peut faire des morts derrière. Alors, quand c'est justifié, moi, j'ai été soldat français, donc quand on s'engage, c'est un pacte qu'on signe avec la nation, au péril de sa vie, potentiellement, oui, mais pour une cause juste, pas pour servir de...
Bubba Wallace here, from 2311 Racing. You know what's slower than a pace car? Waiting at the car wash. That's when I fire up Chumba Casino. It turns those slow minutes into fast fun. With new games every week, you'll never get bored. Next time you're stuck in the slow lane, speed up with Chumba. Play now at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
De béquilles aux Américains, à Netanyahou... Et
ça peut dégénérer, la façon dont tu parles, ça peut dégénérer alors.
Mais bien sûr que ça peut dégénérer, on peut se faire déglinguer. Dans le détroit Hormuz, on peut se faire déglinguer, je suis désolé, il y a encore des navires qui ont été éclatés aujourd'hui. Il suffit de suivre l'actualité. Il faut aller regarder ce qui se passe là-bas, pas ce qui se dit ici, ce qui se dit là-bas. Moi je fais un point, si tu veux, un point d'actualité toutes les 2-3 heures. En allant regarder sur les médias arabes, sur les médias israéliens. Alors, sur les médias israéliens, t'arrives pas à voir des vidéos de ce qui se passe vraiment là-bas, des impacts et compagnie, t'as du mal. T'as des vidéos qui circulent. Non, mais sur les autres, si. Mais au Liban, ils vous montrent.
C'est la démocratie,
Charles. Au Liban, ils vous montrent tout. Hein. Ouais. Ils vous montrent tout. Au Liban, c'est vraiment, on a tout.
Même les chars Merkava qui ont été.
On nous montre tout. Il faut aller chercher, il faut aller regarder, là, faut trouver. Il faut lire l'arabe, il faut aller. Voilà. Et donc, si tu veux, je fais un point comme ça. Et quand je lis, franchement, ce que je trouve là-bas, et quand je vois comment est traitée l'info ici, j'ai un écran dans mon bureau qui tourne en boucle sur les trois chaînes. Hein.
C'est quoi le différentiel?
Le différentiel, c'est qu'ici, on va te prendre une situation donnée et on va te la faire tourner en boucle toute la journée. Alors, tu vas sur LCI, tu vas sur CNews, tu vas sur BFM TV, c'est quasiment la même chose. On est complètement désinformé. Et ce qui fait que ça forge une fausse opinion de ce qui se passe. Ça forge une fausse opinion de ce qui se passe.
C'est colossal, d'ailleurs.
Comment ?
C'est colossal.
Mais c'est immense. Et après, quand tu viens amener des faits qui se sont produits là-bas, oui, tu cites pas tes sources. Oui, mes sources, c'est un peu d'immédiat, si tu veux. Aujourd'hui, on est en train de se servir de nous. Comme une espèce de pion qu'on déplace à loisir.
C'est qui nous? Alors... C'est la France?
Mais bien sûr, nous, la France, d'accord. Mais bien sûr. Il y a un VRP qui est là, et moi, ce qui me choque, c'est le mutisme de Bruxelles et des autres chefs d'État. Quand je vois Merz qui lâche Sanchez en une fraction de seconde, mais elle est où l'unité européenne qu'on nous vend depuis le début?
Alors, c'est pas très vrai ce que tu dis, parce qu'il y a des gens qui nous ont répondu en micro-trottoir, enfin en reportage plutôt, pardon, ils nous ont dit, écoutez, je suis très bien informé par Antenne 2.
C'est vrai, effectivement.
R3.
Non mais
est-ce que c'est vrai ou pas ?
Non,
c'est
merveilleux. Effectivement, sur la couverture médiatique, comme on dit, hein, la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et là, force est de constater qu'effectivement, le terrain israélien est complètement verrouillé. D'ailleurs, je crois qu'ils ont sorti une nouvelle loi, il semblerait, je parle au conditionnel, que comme quoi, effectivement, ceux qui mettraient des images ou qui publieraient des images sur les réseaux sociaux risqueraient de se faire poursuivre. Alors, il semblerait que ce soit le cas à l'heure actuelle. Donc ça, c'est problématique. Et puis, on a toutes les images derrière de l'Iran, Téhéran sous les bombes. Mais quand on a envie de se renseigner effectivement sur les impacts sur Israël, effectivement, là, c'est le vide intersidéral, on n'a absolument rien, c'est compliqué de savoir la vérité. Voilà, donc, comment va exister Macron, pour revenir à ta question initiale, par rapport à cette escalade?
Non, on parle un peu de Macron, là.
Franchement, j'ai du mal à comprendre. Il y a déjà un deuxième front qui s'est ouvert maintenant avec cette guerre en Iran. On a eu du mal à sortir de cet empêtement au niveau de l'Ukraine. On y est encore, mais vraiment, c'est-à-dire nous a ruinés. En termes de matériel, on a vu effectivement
Eux, ils ne sont pas ruinés parce qu'ils chantent beaucoup dans les rues de Paris, hein, je remarque. Hein. Non, surtout la Bastille.
C'est vrai, ça si tu fais référence à un reportage, précédent, effectivement.
Et le prochain qui arrive.
C'est vrai qu'ils chantent beaucoup. Mais pour revenir justement à mon propos, c'est vrai que à l'heure actuelle, je ne vois pas les réserves ou la possibilité d'action de la France matérielle déjà. Matérielle et même humain, parce que derrière, on a certes une armée de métier, mais on va l'envoyer où ? Sur le Détroit, on a compris qu'effectivement, ils n'ont pas du tout les clés du lieu. Il n'y a pas de possibilité de sécuriser les lieux. Ça, c'est clair. On va se faire dézinguer. Et je ne comprends pas la posture de Macron à l'heure actuelle. À part faire de la com, il ne peut absolument rien faire. Il gonfle les muscles qu'il n'a pas.
T'as raison. Mais Jean-Michel, est-ce que justement cette communication vise peut-être à actionner l'article 16 ?
C'est ce que j'allais dire.
Toi et moi, on est connectés, t'as vu ?
Tu me l'as volé de la bouche, bien entendu. Macron, chef de guerre, il a commencé. Nous sommes en guerre quand il parlait du Covid. La bête de l'événement est arrivée. Il ne peut exister, se sauver que par cette fuite en avant perpétuelle. Mais il a des ambitions européennes, certes, et même au-delà, puisqu'il avait consulté Jeffrey Epstein sur la question. Et Jeffrey Epstein aussi, c'est les réseaux, le maillage sur le Proche-Orient dans le Golfe était tout à fait extraordinaire. Donc Macron veut non seulement se sauver, mais rebondir. Article 16, apparaître comme le sauveur de l'Amérique. Netanyahou est le sauveur de la planète, le sauveur de l'Occident, le sauveur de tout le monde, sauf des Gazaouis, évidemment. Et nous, M. Macron essaye de se donner cette stature, mais il n'y arrivera pas. C'est évident.
Mais justement, Laurent, est-ce que Macron cherche justement à faire croire qu'il va rentrer dans une guerre, à mondialiser peut-être cette guerre pour peut-être, in fine, gratter du pouvoir ?
D'abord, oui, effectivement, l'article 16 ici, qui lui permettrait de se maintenir au pouvoir, ce qu'il n'a plus l'occasion de faire maintenant, en tout cas constitutionnellement. Et puis, je pense qu'effectivement, l'extension du conflit serait tout à fait bénéfique à l'Occident, en général, pas juste à la France, parce que l'idée, c'est de faire rentrer la Chine dans le conflit, de faire rentrer d'autres pays dans le conflit, notamment, on pense à l'Azerbaïdjan. Si l'Azerbaïdjan, qui vient souvent à l'aide d'Israël, entre dans le conflit, eh bien, il se pose la question de l'Arménie, de la Turquie, évidemment, parce que l'Azerbaïdjan, s'il rentre dans le conflit, Bakou va disparaître.
De quoi ça veut dire que ça va être très mondial, ça ?
Oui, donc le baril de pétrole à 200, la Turquie va s'y mettre, et la Chine, au bout d'un moment, parce que le détroit d'Ormuz est quand même très important pour la Chine. C'est pas une question de vie ou de mort pour la Chine, ça l'est plus pour les monarchies locales, mais c'est quand même quelque chose qui est fondamental pour la Chine, pour les routes de la soie et choses comme ça. Et l'idée, c'est en fait de mondialiser le conflit, parce que c'est ce qui permettra, aussi bien aux États-Unis, à Israël et à des gens comme Macron, mais il n'y a pas que lui en Europe, de se sortir du bourbier dans lequel ils sont. Ils sont complètement empêtrés, il n'y a que le chaos qui peut éventuellement...
C'est-à-dire qu'ils pourront dire, mais c'est pas de ma faute, c'est à cause de l'Iran...
Voilà, au plus ça se mondialise, au plus il y a d'opportunités de trouver des excuses.
Recours à l'arme nucléaire également, c'est pas exclu.
Recours à l'arme nucléaire ?
Bien sûr, pour des frappes de démonstration. On a envisagé, juste en un mot, on a envisagé des frappes dans les déserts iraniens comme une sorte de coup de semonce pour tétaniser tout le monde.
on transgresse, on prend, voilà.
Moi, je trouve qu'on a effectivement, après, je ne vais pas rentrer dans une thèse pseudo-complotiste, mais il y a quelque chose, moi, qui m'interpelle depuis le début de ce conflit, c'est-à-dire qu'on a l'impression que Trump est rentré le pied dedans vraiment pour un sort de nuage de fumée pour faire oublier les dossiers Epstein.
Ah bon ?
J'ai cette impression, c'est flagrant.
C'était pas préparé, c'est sûr.
C'est même pas préparé.
Laissez-vous parler, vas-y.
C'est-à-dire qu'effectivement, il rentre dedans sans même avoir préparé, en étant en conflit avec ses conseillers qui lui disaient surtout de ne pas y aller parce qu'effectivement, l'Iran, c'est pas le Venezuela. Et derrière, on a notre cher président qui lui aussi est empêtré dans ses dossiers Epstein, qui se dit voilà, je vais essayer de noyer un petit peu le poisson et de me faire voir sur le porte-avions en tant que chef de guerre. Tant qu'on ne parle pas de Epstein et de moi affilié à ça, c'est toujours mieux que rien. Non, honnêtement, il y a à quoi de se poser les questions. Je ne suis pas dans leur tête, je ne suis pas psychanalyste, mais il faut s'interroger. Effectivement, vu la dimension et surtout les derniers rapports qui sont sortis là, sur les derniers fichiers, je crois qu'il y en a eu 50 000 qui sont sortis, effectivement, ou qui montrent que Trump est vraiment les deux pieds dedans, quoi.
Qu'est-ce que t'en penses ? Je me dis, tu crois ça, dans cette théorie ?
Trump, il est vraiment très, 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 très mal barré dans cette histoire.
Je pense que la planète et l'univers est mal barré. À partir du moment qu'il y a les Rothschild dedans, tout le monde est... C'est tentaculaire, cette affaire. Non, moi, je pense pas qu'on déclenche une guerre d'une si grande ampleur pour justement... Non, mais enfin, je veux dire, il y en a qui ont été dézingués sans déclencher de guerre quand ils gênaient, hein. Kennedy, il s'est fait dézinguer sans déclencher de guerre. Je veux dire,
il voulait bloquer le programme nucléaire israélien.
Ce que je veux dire, c'est que dans cette histoire, déjà, quand on parle de Maduro, moi, ça me fait sourire quand on parle de Venezuela, parce que pour en revenir au Venezuela, déjà, on n'a pas de nouvelles de Maduro, on ne sait pas ce qu'il vient. On sait qu'il est dans une prison, peut-être, mais on a quand même enlevé en pleine lune, en utilisant la Delta Force, le président d'un pays dont l'armée possède plus de 5000 roquettes anti-hélicoptères, anti-aviation. Il y en a une qui a été tirée. Et c'est un type, quand même, qui avait, je ne sais pas s'il l'a toujours, une énorme villa en Floride. Non, mais j'ai envie de dire, on se fout de la gueule de qui ?
Maduro, là.
Bien sûr ! Mais qu'est-ce que c'est que ce cinéma, là ? Non, mais attends, la Delta Force en pleine lune ? Non, mais attends, la Delta Force, elle traverse le Venezuela en pleine lune, il n'y a pas un tir dessus ? Mais il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire.
Les valises de dollars.
Bien sûr. Donc l'histoire de, qu'il y a que LFI qui croit à l'enlèvement de Maduro. Hein. Mais ça s'arrête là. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Non, mais c'est clair. Après, quant à cette histoire de déclenchement de guerre pour l'affaire Epstein, je dis pas que c'est pas vrai. Mais je dis que moi, j'ai du mal à croire qu'on soit au bord. Parce qu'il faut que ça... Mais le Proche-Orient, il faut savoir de quoi on parle. On parle de la poudrière du monde. On parle vraiment de l'endroit, de ce globe, où il y a une concentration de tous les intérêts de la planète.
Et de tous les dangers.
Et de tous les dangers. Donc, de tous les dangers. Donc, vous ne déclenchez pas une guerre à cet endroit-là. Si déclenchez une connerie à la Maduro, pour faire oublier, peut-être, ou Cuba, ou tu vois, d'ailleurs, ils ont dit à Cuba, il vous reste très peu de temps, ils veulent mettre Marco Rubio. Tu vois,
on fera la Riviera,
veut récupérer le Groenland. Tu penses qu'il a, il a tout. Il réfléchit comme quelqu'un, on va dire, de normalement
mais
constitué.
C'est une hystérie, le Groenland.
Sérieux, non, mais t'as compris. C'est-à-dire que le mec, il est dans la surenchère perpétuelle. Ça m'étonnerait pas c'est que sur un coup de sang comme ça, il soit parti carrément dans du grand n'importe quoi, en pensant qu'effectivement, il avait toutes les cartes en main pour avoir. Pour déclencher une guerre éclair, comme il l'imaginait, et il est tombé sur un as. Mais derrière, effectivement, on peut se poser des questions, on peut s'interroger. Moi, je me dis que... venant de Trump, tout est possible.
Tout est possible, parce que Trump fait du Trump, et il est imprévisible,
voilà,
il est comme
on
ça.
On est d'accord.
Là. Mais là-dessus, on est d'accord. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est qu'on ne déclenche pas une guerre d'une si grande ampleur dans la poudrière du monde pour cacher que t'es impliqué dans les affaires Epstein.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See TNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Sauf Trump.
Mais peut-être les affaires sont beaucoup plus importantes qu'on ne
mais
le pense.
Mais il y a un autre truc, il y a un grand absent aussi de ce débat, c'est la situation du Proche-Orient. La situation du Proche-Orient aujourd'hui, moi j'avais fait un podcast là sur mon Patreon en expliquant la situation de 1916 jusqu'à aujourd'hui. J'ai appelé ça l'explosion programmée. Ça devait péter à un moment ou à un autre. Alors, il y a eu l'accélérateur qui s'appelle Netanyahou, et il y a eu son homme de main qui s'appelle Trump, puisqu'il faut savoir que Trump, quand même, s'est bien fait mener par le bout du nez par Netanyahou, et ça fait des mois et des mois, voire peut-être des années, j'en sais rien, qu'il le travaille. Mais le Proche-Orient, c'était une explosion qui était programmée. C'est des cartes qui ont été dessinées par deux types, un Anglais et un Français, sur le coin d'une table, en misant sur la défaite de l'Empire Ottoman, enfin la Première Guerre mondiale.
Ça explique,
bien sûr. Juste une seconde. Allez-y. En misant sur la défaite de l'Empire Ottoman, l'Empire Ottoman tombe avec la fin de la Première Guerre mondiale et ils se partagent. Et à partir de là, il y a eu une succession d'événements durant un siècle, avec des blessures qui n'ont jamais été refermées, avec tout un tas de catastrophes que les peuples ont subies sur place. Et tout ça, alors il faudrait faire une émission là-dessus, mais tout ça, ça couvait, et ça a fini par péter là.
Cher Laurent, on peut l'expliquer comme ça ? Ou pas ?
Moi, je pense qu'il y a d'autres enjeux.
Ben,
c'est pas monocausal, c'est sûr et certain. Je pense que c'est pas juste l'affaire Epstein, se sortir du bourbier de l'affaire Epstein. C'est pas non plus qu'une question de régler le problème du Moyen-Orient, parce que ça aurait été fait auparavant. Je pense que là, on est vraiment en fin de course pour l'Occident. La machine à billets qui tourne depuis trop longtemps aux États-Unis. Et il faut une crise pour, en fait, camoufler, pour noyer le poisson, en fait. Et là, c'est parfait. C'est parfait pour Trump et puis tous les gens qui sont derrière, parce que on parle beaucoup de Trump. Moi, j'ai l'impression que Trump n'est pas du tout aux manettes, qu'il est entraîné par Netanyahou, comme tu le disais, et puis il y a d'autres personnes derrière.
Qu'est-ce qu'il en pense en Chine justement de Trump?
Alors il l'aime bien parce que il entraîne tellement les États-Unis vers le fond que finalement il pousse la Chine vers le haut. Donc en fait il l'appelle le Trump le bâtisseur du pays, mais en parlant de la Chine, pas des États-Unis. Donc il l'aime bien, il le trouve drôle, il est complètement inefficace et contre-productif, donc c'est très bon pour la Chine. Mais justement, puisqu'on parlait tout à l'heure de la propagande qu'on subit en France médiatique, et qu'effectivement l'homme de la rue comprend pas trop ce qui se passe, ou alors il se retrouve à soutenir Israël et les États-Unis, ce qui est intéressant, c'est que dans un pays comme la Chine, où il n'y a pas du tout accès aux médias occidentaux, puisqu'ils sont bloqués, eh bien, il y a eu une vague de solidarité de la population chinoise qui envoie des dons à l'ambassade iranienne à Pékin, et l'ambassade iranienne a dû mettre sur son site web un message en disant « On n'en a pas besoin pour l'instant, mais merci au peuple chinois de sa solidarité ». Donc les gens, ils comprennent, ils ont très bien vu que l'Iran avait été attaqué par les Israéliens et les États-Unis. Tout le monde sait pourquoi. Et ce qui est surprenant, si vous allez en Chine, vous verrez, vous discutez avec un chauffeur de taxi, avec un serveur de restaurant, avec des gens qui, on a l'impression, ne seraient pas plus informés que leur équivalent ici en Europe, mais ils sont beaucoup plus informés des questions de géopolitique, en tout cas dans les grandes lignes.
Alors, cher Jean-Michel, je sais que tu veux rebondir, mais je veux aussi après que tu parles un peu des conséquences qu'il pourrait y avoir ici en France.
Alors, deux choses. Je ne suis pas non plus monocausal. L'affaire Epstein n'est sans doute qu'un élément. Si l'affaire Epstein est entrée dans le dossier du conflit, il y a une hypothèse aussi, parce que tant qu'à être conspirationniste, il faut l'être véritablement. Et de toute façon, la guerre actuelle est une conspiration contre la paix et contre les peuples, et contre la liberté des peuples, et contre notre propre liberté. La conspiration, elle existe. Eh bien, ce qu'il y aurait eu, ce chantage, on tient effectivement Monsieur Trump peut-être un peu par les couilles, mais
ça fait
aussi
deux fois. Hein.
Oui, j'ai remarqué.
Je remarque que ça fait deux fois hein, pour un journaliste du Figaro d'antan.
Deux fois aujourd'hui.
Ah oui, deux fois. Hein, là, je ne sais pas ce qui se passe.
Je pensais que c'était la première.
Vas-y, continue.
Alors, il y a aussi un chantage. J'en reviens toujours au chantage nucléaire. Vous connaissez l'option Samson. Si nous sommes au bord de couler, vous coulez avec nous. L'option Samson, c'est-à-dire on ne coulera pas seul et vous paierez le prix de notre faillite. On a peut-être mis entre les mains de Trump, dire si vous n'y allez pas, ben nous, on y va et on prendra les grands moyens. C'est pas absurde, c'est même peut-être un peu plausible. Et donc Trump mis au pied du mur, dit bon ben il faut gérer la chose. Nous ne sommes pas les organisateurs, mais feignons de l'être. Hein. Et il faut pas oublier que le premier coup de décapitation, ce sont les Israéliens qui l'ont porté.
C'est après qu'ils sont intervenus les Américains.
Oui, les Américains ont brillé. Mais enfin bon, les plans étaient faits, on dit, depuis le 29 décembre, quand M. Netanyahou est venu à Mar-a-Lago. Donc il peut y avoir un chantage. C'est pas du conspirationnisme pur, c'est dans l'ordre des choses.
Et l'attitude de Macron, c'est quoi? C'est pour faire oublier qu'il va y avoir une crise
Macron, il est à la
encore
ramasse.
Plus importante
Macron est à la ramasse, il est largué, il essaye de rentrer dans le jeu.
Est-ce qu'il peut rentrer dans le jeu?
Pardon?
Il peut rentrer
en faisant le con, en envoyant...
Il y avait eu un précédent avec Hollande.
Non, mais pourquoi pas le... on vit dans un monde tragique, il faut avoir le vocabulaire de notre époque.
Il était prêt à y aller, et puis finalement...
Et c'est fait la chaîne, on n'y va plus.
Voilà, il est trop content d'y aller. N'oublions pas qu'il avait consulté Epstein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ça.
Si,
je le répète, tout ça forme un tout. On est dans un univers epsteinien. Nous sommes en Epstein-y ou en Epsteinland. Tout est intriqué. L'État américain est devenu un État mafieux. L'État profond est absolument tout puissant. Et on découvre, c'est l'apocalypse, hein, il y a une révélation. On découvre qui sont les véritables maîtres du jeu et du monde.
Les conséquences, du coup, merci Jean-Marc Michel. Les conséquences, Farid, ça va être désastreuses ici. Déjà, $115 le baril.
On commence à les voir à la pompe, mais je pense que ça risque de venir. Mais c'est vrai qu'il faut le voir sur plusieurs aspects. Il y a un côté aussi messianique et eschatologique aussi dans la tête de certains dirigeants américo-israéliens.
Il faut le dire.
Mais au-delà de ça, eschatologique, donc il y a un moment donné où on se dit... quand Macron dit face caméra, la bête de l'événement arrive, ces mots-là prennent tout son sens. Et j'ai l'impression que sa volonté de nous ramener vers la guerre, alors qu'il n'y a aucun intérêt d'y aller, alors qu'il n'y a aucune raison du droit international d'y aller, même si on rip le droit international, on voit que derrière, ils ont une vision qui, pour nous, nous échappe, dans le sens où il y a un côté spirituel, religieux. Mais religieux, je ne vais pas dire dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a un côté nihiliste. Il y a un côté nihiliste derrière.
Les obscurantistes, ce n'est pas les Américains, ni les Hébreux. Ce sont les Mollahs. C'est eux, les obscurantistes.
Là, je sens une pointe de sarcasme de ta part, naturellement. Non, mais c'est grave, effectivement, l'inversion des valeurs. Je ne parle pas au niveau des Mollahs, mais à l'heure actuelle, dans notre société, c'est vrai que je pense qu'on. On tire vers les abîmes. Et force est de constater que les dégâts en France et en Europe vont être incroyables. Économiquement parlant, déjà l'électricité avait flambé avec cette guerre en Ukraine, c'était compliqué. Là maintenant, avec le détroit d'Ormuz qui est totalement verrouillé... Et va continuer encore. Mais ce que j'ai envie de dire, là ce qui est intéressant de voir et d'analyser sur les jours à venir, c'est par rapport justement à cette claque qu'a pris les pays du Golfe. Dans le sens où ils ont remarqué qu'effectivement, ils ont totalement été abandonnés par les États-Unis. Donc le salut et la protection ne viendra pas des États-Unis. Et ça, c'est une leçon chèrement apprise de la part de ces monarchies du Golfe qui va faire que demain, est-ce qu'effectivement, ils vont totalement demander aux bases américaines de partir parce qu'ils les mettent en danger ? Il y a une possibilité. Il y a des troubles qui commencent à se faire ici et là dans certaines monarchies. Apparemment, ça commence à taper fort. Mais derrière, est-ce que on se souvient, est-ce que les accords de Bretton Woods vont continuer avec le pétrodollar? Est-ce que les BRICS qui attendent, on va dire, derrière le sous-bois va sortir et va commencer à prendre la place qu'ils doivent prendre? Est-ce que derrière toutes ces monarchies du Golfe vont plus justement commercer en dollars? C'est la chute du dollar, c'est la chute de l'empire américain, de l'impérialisme et de l'image occidentale, et c'est l'émergence du sud global comme il devait être sorti depuis.
T'as pas l'air d'accord,
cher Charbel? J'ai vécu à Dubaï pendant 2 ans, je peux vous garantir que... Moi, pour moi, les
T'as vécu avec qui? Avec Nabila, tout ça?
Non, pas avec Nabila, j'étais agent immobilier, je travaillais dans l'immobilier là-bas pendant 2 ans. Et je suis revenu parce que pour des raisons familiales. Moi, je pense pas que... Je pense qu'ils font partie, si tu veux, de la stratégie du problème. Il y a un truc qui m'a un petit peu étonné, c'est qu'ils en prennent plein la gueule, il n'y a pas un missile qui part des monarchies du Golfe en direction...
Comment tu l'expliques?
Moi, je l'explique, parce qu'ils ont reçu l'ordre de rester tranquille.
De la part de qui?
De la part de qui?
Ils n'ont plus de radar.
Non, mais c'est même
pas
ça.
Mais il faut dire les termes. Attends, il faut dire
Dubaï,
les termes.
Si, ils interceptent à Dubaï. À Dubaï, ils interceptent. J'ai mes potes qui sont là-bas.
Bon, et alors, c'est intercepté. Qui a dit quoi?
C'est intercepté. Moi, je pense que les Américains ne les ont pas encore fait rentrer dans la danse. Ils les gardent en réserve. Mais il n'y a pas un missile. Il n'y a pas une riposte sur l'Iran.
Non, mais non seulement ça, mais aujourd'hui, il y a Lavrov qui a fait une réunion à Moscou avec tous les ambassadeurs des pays du Golfe. Et il leur a dit: j'ai appris que demain, vous allez déposer à l'ONU une motion de censure contre l'Iran. Il dit, qu'est-ce que vous faites? C'est vous qui êtes en train de vous faire bombarder, vous n'avez pas dénoncé ce qui est l'attaque, vous n'avez pas dénoncé les 170 filles dans l'école, les bombardements d'hôpitaux, vous n'avez rien dénoncé. Et là, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dénoncer l'Iran à l'ONU. Il a dit, ça défie toute logique, parce que, en condamnant l'Iran, en fait, vous justifiez ce que les États-Unis et Israël font. Voilà. Donc effectivement, je ne pense pas que les pays du Golfe, malgré ce qu'ils ont subi, ce qui est peut-être... Ils n'ont peut-être pas subi encore tout ce qu'ils peuvent subir. Hein. On parle de...
Enfin, venant quand même de Lavrov, ce qu'ils ont fait en Ukraine depuis 2022, bon, le droit international, tout ça, oh, c'est un peu discutable quand
même.
Non,
mais d'accord, mais ils parlent d'une logique, dans le sens où effectivement, vous plaignez d'être bombardé, mais vous allez finalement aux Nations Unies dénoncer le pays qui riposte, pas le pays qui a attaqué.
Ils ont le cul entre deux chaises. Voilà. Je pars toujours dans le même registre.
Très bien, bravo.
Ils ont le cul entre deux chaises. Ils savent pas entre mes deux que mon cœur balance. Il faut ménager les États-Unis. Il faut. Bon, c'est insupportable comme position.
Non, mais il y a même pas une riposte. Mais vous vous faites tirer dessus. Je vois par exemple au Liban, le Hezbollah, pas le Hezbollah, ça riposte. Ben, le Liban à son échelle. On a bombardé Dubaï. On a bombardé Abu Dhabi. Faut savoir de quoi on parle. On parle du
Qatar
hub économique.
A arrêté sa production pétrole.
Drew McIntyre here from WWE. Wielding the claymore can be a life of chaos. When I'm not dominating in the ring, Chumba Casino is how this warrior takes a wee break. With hundreds of online social games and new weekly releases, there's always something fresh to try. And those daily boosts, next level. Even my free time feels like Valhalla. So when life feels like a battle, kick up your feet, have some fun, and let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See T's and C's. 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Ben oui, même l'Irak, tous ils se sont fait taper, mais il n'y en a pas un qui a riposté, même l'Irak n'a pas riposté. On a bombardé le hub économique mondial, il faut savoir ce qui se passe à Dubaï, qu'est-ce qu'il y a à Dubaï? À Dubaï, vous avez plus de 200-250 nationalités, il y a toutes les grosses compagnies mondiales.
Qu'est-ce qui est bombardé à Dubaï aujourd'hui?
Ça tire sur l'aéroport, ça tire sur les...
Non, mais tout est détruit, comment ça se passe?
Non, tout n'est pas détruit, mais il y a beaucoup d'interceptions, mais ça a tapé sur l'aéroport par exemple, plusieurs fois sur l'aéroport. Ça a tapé sur Bourg Al-Arabe, ça a tapé... Comment ?
Il y a un hôtel en feu, là, je crois que le Fairmont...
Oui, à la Marina, il y a une énorme tour.
Oui, mais
d'ailleurs, je visite là-dedans. Pareil, elle s'en est pris.
Oui, parce qu'il y avait des soldats américains, des personnels américains...
Oui, alors après, les raisons, voilà, comme chez nous, les Israéliens ont tapé sur un hôtel à Beyrouth, où il y avait des mecs du Pass d'Aran à l'intérieur... voilà, ils ont fait 4 morts. Enfin, voilà, c'est après ça, c'est la guerre, c'est comme ça. Mais ce qui m'étonne moi, c'est que ça bouge pas, tranquille. On se fait taper sur la tronche, ça bouge pas. Alors qu'à Dubaï, vous faites une insulte envers quelqu'un, vous finissez en prison.
Mais je pense qu'il y a peut-être quand même un élément qu'il faut tenir en compte, c'est que s'ils ripostent, pour l'Iran, c'est porte ouverte, c'est-à-dire les usines de dessalement d'eau de mer et les raffineries.
Mais ils ont déjà tapé, il a raison.
Oui, mais.
Bahreïn, la
voiture. Ils ont énormément à perdre. Et là, c'est la catastrophe humanitaire en 2 semaines. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau pour tout le monde. Tout le monde doit partir. Voilà.
Et n'oublions pas que ces monarchies du Golfe a quand même axé une grande partie de leur avenir sur une communication de pays pour riches, safe. En dehors de tout conflit. Ouais. Et effectivement, s'il riposte et puis il escalade derrière, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, derrière, tout le monde va partir, vont prendre leur bille et puis fini pour ces monarchies-là. Donc, effectivement, c'est
très prudent,
compliqué.
Très
il faut
dans leur riposte,
ménager la chèvre et le chou, ils savent pas comment.
C'est la première
faire,
chose.
C'est quoi.
Et le pire, c'est que les États-Unis ont bombardé une usine de dessalement en Iran. Alors, c'était une petite qui alimentait quelques villages. Mais enfin, l'Iran a dit, bon, là, il y a un précédent. Donc,
mais ils ont tapé aussi.
On peut bombarder. À ma Bahreïn, oui.
Merci à vous quatre. On va passer à la troisième partie et puis je vais vous montrer une vidéo de quelqu'un qu'on aime beaucoup qui n'est plus là malheureusement et on va la commenter. Allez, troisième partie.
Envie de liberté? Dépêchez-vous car il vous reste moins de 5 ans. Vous ne me croyez pas? Je préférerais aussi, mais dans 5 ans arrive l'euro numérique et avec lui la liberté, l'épargne et la consommation ne seront plus jamais comme avant.
C'est-à-dire que vous n'aurez plus rien, mais que vous serez heureux.
Merci bien.
Chez GP, on travaille tous dur pour informer le public de ces plans. Mais on travaille encore plus dur pour lutter contre ces plans. Et notre outil de lutte numéro 1, c'est notre magazine La Lettre Confidentielle. Dedans, on détaille nos analyses macroéconomiques et on expose nos solutions financières. Et pour beaucoup d'abonnés à cette revue, le changement dans leur vie a été sans équivoque. Alors, envie de tourner la page ? C'est juste sous la vidéo.
Merci à vous d'être si nombreux, 4500 personnes en direct. Merci beaucoup de votre confiance. N'oubliez pas, adhérez au club Géopolitique Profonde, cliquez sur le lien ci-dessous, vous serez membre avec Jean-Michel Vernochet, Laurent Michelon, le maître du Logos, Xavier Moreau, Sylvain Ferreira et tous les autres. Vous recevrez cette carte, belle carte là, de membre. Elle vous permettra d'avoir des réductions un peu sur tout. Et la grande annonce, le 27 mars, grande soirée géopolitique profonde, la soirée des 400 000 abonnés, 27 mars dès 19h, alors on fera la fête, on va cogiter, on va pouvoir discuter entre nous, vous pourrez voir tous ceux que vous regardez tous les soirs. Vous cliquez sur le lien ci-dessous, attention, c'est limité en place. Donc voilà, vous cliquez sur le lien et faites-le dès à présent. Alors, on a une vidéo de quelqu'un qu'on aimait beaucoup ici à Géopolitique Profonde, c'est le général de Lavarde. Elle en date du 4 octobre 2024, la matinale de notre ami Nicolas Stocker. Et on va l'écouter et on va commenter ce que disait feu général de Lavarde.
D'abord, il faut savoir que quand les États-Unis envisagent de faire la guerre, ils font ce qu'on appelle des war games. Et ils essayent d'imaginer ce que donnerait. Alors, dans des exercices d'état-major, ils lancent une grande opération, bon, fictive, mais avec un commandant des forces opposées et un commandant de nos propres forces et qui s'affrontent, les deux camps s'affrontent dans un exercice d'état-major pour voir le résultat. En 2002, il y a eu plusieurs wargames contre l'Iran. Plusieurs wargames contre l'Iran. Alors, on n'appelle pas l'Iran l'Iran, hein, on n'appelle pas les États-Unis, on appelle ça les bleus et les rouges, mais ça ne trompe personne. On sait qui est derrière ces jeux de guerre. J'ai eu l'occasion de participer en tant que représentant de la France à un de ces jeux de guerre. Donc, c'est très intéressant. Hein, et en 2002, le jeu de guerre qui s'appelait Millennium Challenge et qui consistait donc à faire une guerre à l'Iran. La force expéditionnaire américaine s'est approchée des côtes iraniennes et en deux jours, elle a été coulée. Alors, c'était fictif, hein, elle a été coulée. Il y a eu 15 bâtiments sur 16 qui ont été coulés de la première vague expéditionnaire et la deuxième vague a été coulée de la même manière parce que les Iraniens, même en 2002, avec des moyens de 2002. Je ne vous dis pas avec les moyens de 2024. L'Iran de 2024, ce n'est pas l'Iran de 2002. Hein, et ce n'est pas l'Irak, encore plus de 2002. Hein. L'Iran, c'est quatre fois la population, ou presque, de l'Irak de 2002, et c'est quatre fois la surface. Et puis, c'est une puissance économique bien supérieure à ce qu'était l'Irak. Et une résilience qui a été prouvée dans le passé. Donc tout ça, en 48 heures, le général Van Ripper, qui commandait, américain, hein, du corps des Marines, qui commandait les forces iraniennes contre son propre camp, donc dans ses exercices, dans ses jeux de guerre, war games, hein, et a réussi à détruire la force expéditionnaire américaine en deux temps, trois mouvements. Hein. C'est-à-dire que les Américains, aujourd'hui, vous comprenez, ils n'ont pas envie. Alors, ça aurait été la perte en quelques heures. Hein. Deux jours après le début du conflit contre l'Iran, dans cet exercice Millennium Challenge, il y avait 20 000 Américains au tapis, hein, et au fond de la mer, hein, dans les bateaux, avec les avions qui allaient bien. Il y avait un porte-avions et tout un groupe porte-avions qui était à l'eau. Donc, la première raison pour laquelle on perdrait la guerre, c'est que l'Iran d'aujourd'hui, c'est pas l'Irak de 2003. Et déjà que les Américains, on l'a vu, se font foutre dehors, ils se sont fait foutre dehors du Vietnam, de l'Irak, de l'Afghanistan et de tout ce qu'on veut.
Hein, et de la Syrie.
Et de la Syrie aussi. Hein. Donc, ils ont perdu à peu près toute leur guerre. Et là, ils n'ont pas envie d'entamer une guerre, d'autant que l'Iran n'est plus seul. L'Iran n'est pas seul. L'Iran a derrière elle, l'Iran fait partie de grandes organisations internationales qui lui permettent d'avoir de plus en plus de résilience, et en particulier, quelles grandes organisations internationales, l'Organisation de coopération de Shanghai, et puis les BRICS.
Bien sûr.
L'Iran fait partie de ces deux organisations et a au sein de ces organisations des alliés, et pour ne pas dire, et de bons amis. Hein, la Chine et la Russie sont, qu'on le veuille ou non, du côté de l'Iran. Hein, ils sont d'ailleurs tous les trois classés dans la même catégorie de l'axe du mal, hein, contre les Américains et contre Israël aussi, hein, bien sûr. Hein. Donc, si vous voulez, vous ne gagnez pas l'Occident otanien, et Israël ne gagneront pas à eux tout seuls une guerre menée sur autant de fronts. On peut gagner contre un adversaire, hein, contre deux adversaires, mais simultanément, on ne peut pas gagner contre des adversaires de la taille de l'Iran, de la Russie et de la Chine. Simultanément, ça n'est pas possible.
Alors, c'était les paroles du général de Lavade, le regretté général de Lavade, qui venait chez nous très, très souvent. Qu'est-ce que tu en penses, Laurent, de ce qui s'est dit ?
Ben, je suis d'abord très nostalgique de voir le général de Lavade, que je suivais beaucoup chez vous. Et effectivement, quand il dit que l'Iran n'est plus seul et que l'Iran de 2024 et 2026, maintenant, c'est plus celui de 2002, il a raison. Effectivement, la Chine, l'Iran, en dehors d'être également membre de l'OCS et puis des BRICS, c'est un pays qui maintenant fait des achats d'armes à la Chine. Et pas n'importe quoi. Moi, je me rappelle, en novembre 2024, j'étais au salon aéronautique de Zhuhai, qui est un salon principal. Enfin, il est civil et militaire, mais principalement militaire. Et j'avais vu monter dans un J-10 chinois le général iranien qui est en charge de l'Air Force iranienne, avec toute sa délégation. Et je me suis dit, ça, c'est quand même bizarre, parce que s'il vient et qu'il monte dans l'avion devant les médias chinois, il n'y avait pas un seul média occidental, ça veut sûrement dire qu'ils ont acheté ou qu'ils vont acheter. Et ça n'a pas raté. Quelques mois plus tard, effectivement, l'annonce a été faite. Alors, ça prend du temps pour former des pilotes. Hein. Je pense que les pilotes iraniens ont déjà été formés en Chine depuis cette époque-là. Ils ne sont pas forcément opérationnels maintenant. L'Iran, même s'ils le sont, l'Iran n'avait pas forcément envie de les sortir maintenant non plus. Mais effectivement, en dehors des radars que la Chine aurait fourni, alors ça reste du domaine de la rumeur, mais la Chine aurait fourni un certain nombre de radars pour se protéger des missiles américains. Ils n'ont pas encore été mis en activité apparemment, mais il y a aussi tout un armement offensif chinois. Et ce qui est intéressant, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ce J-10 chinois, cet avion, qui est un avion de génération 4,5, c'est quand même celui qui a descendu des rafales indiens dans l'armée pakistanaise, parce que l'armée pakistanaise s'est équipée du J-10 depuis plusieurs années, mais pas seulement cet avion-là, qui en termes d'avionique est inférieur au Rafale, mais il est intégré dans une suite de missiles, d'avions, de radars, de ce qu'on appelle les yeux dans le ciel, là, ces espèces de gros AWACS chinois. Et donc cette suite intégrée a permis à l'armée pakistanaise, avec quelques J-10 et des bombes et des missiles, d'abattre notamment trois rafales français qui avaient été vendus à l'Inde. Donc effectivement, l'Iran, en termes de wargames...
Hey, it's Cole Swindell. After I give everything I've got to land a perfect vocal, I usually take 5 before jumping into the next track. And I've learned exactly how to recharge in that time. Some folks grab coffee. I hit a quick good luck spin. Next thing you know, the break is just as fun as laying down the track. A better break makes for a better take. Need a break? Let's chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus TNC supply. Sponsored by Chumba Casino.
Et c'est intéressant parce que il se passe la même chose du côté chinois. Les Américains, je le cite dans mon ouvrage en introduction, les Américains ont fait énormément de wargames entre la Chine et les États-Unis et puis le Japon, la Corée, sur un scénario de reprise de Taïwan. Et 100% du temps, les États-Unis se prennent une culottée. Voilà.
Donc s'ils se prennent des culottées, cher Jean-Michel, ils vont avoir besoin d'alliés. et peut-être européen.
Bah, on nous ressasse tous les jours que l'Iran est seul, totalement isolé, mais ils ont mis en place un système, ce qui explique justement les résultats des wargames, mais il y en a d'autres. On revient à des méthodes de combat qui sont extrêmement primitives et celles qui sont les plus modernes. L'Amérique est entre les deux, elle n'a pas compris ce qu'était la guerre au XXIe siècle. Je donne juste un exemple. Quand les télécommunications ne fonctionnent plus, eh bien, on envoie des gens sur des motos pour porter des ordres. Mais là, il n'y en a même pas besoin, puisque l'Iran s'est doté de 31 commandements militaires autonomes, indépendants, dont les objectifs, les cibles, les directives ont été fixées avant le conflit, et donc ils fonctionnent en autonomie, même si on a coupé la tête. La tête vient d'être reconstituée, mais seul Ali Khamenei pouvait, à un moment donné ou à un autre d'ailleurs, ordonner de cesser le combat. Donc il y a une autonomie, ce qu'on appellerait en langage de chez nous, le principe, peu importe le nom du principe, mais ça marche extrêmement bien. C'est une armée qui a su évoluer. Ils n'ont pas programme nucléaire proprement dit, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne préparent pas, comme les Japonais d'ailleurs, mais ils ont pu concentrer, n'oublions pas, si on regarde l'échelle, je m'arrête ici, si on regarde l'échelle des QI à travers la planète, on a les Coréens du Sud, les Japonais, les Chinois de Singapour, et juste après, en quatrième ou cinquième place, on a les Iraniens. Produisent des ingénieurs en pagaille. Contrairement à cette tyrannie épouvantable, est une productrice d'intelligence, de compétences, notamment chez les femmes. 60% des étudiants au niveau supérieur sont des femmes en Iran. Mais on nous dit qu'elles sont écrasées, qu'on les oblige à porter ce...
C'est bon, on nous dit, hein. Ils ont quand même tué le régime a quand même tué plus de 30 000 personnes.
Non, mais
parce
alors,
qu'ils ont protesté.
Chers camarades, je veux sais pas rebondir, mais...
On parlait à un Libanais, hein. Nous, on connaît bien le régime iranien, on le connaît dans notre chair et dans notre sang.
D'où sors-tu ce chiffre? Qui l'a sorti?
Alors, je vais vous parler des attentats qu'il y a eu au Liban.
Non, c'est un autre. C'est,
ah bah non, mais, ah bah oui, mais non, mais quand même.
Mais moi je veux bien, mais
tous les assassinats politiques, c'est qui les a fait? Qui les a fait? C'est pas moi qui le dis. C'est la Cour pénale internationale.
Peut-être.
Alors
peut-être.
Ça aussi, si on les croit pas.
Non, mais peut-être. Si
non, c'est pas peut-être, c'est sûr, c'est un jugement de la Cour pénale internationale dans l'assassinat de Rafik Hariri.
Ah oui.
Ah non, mais voilà. Non, mais oui, d'accord. Mais il y a eu depuis 2005, si vous voulez, tout un enchaînement de
oui,
gens
qui ont été tués. Rafik
Hariri. Non, mais Rafik Hariri, ça a été le symbole. Mais il y a eu. Mais ce que je veux dire, c'est que le régime. Je parle pas du peuple iranien. D'ailleurs, moi, je suis beaucoup de gens, des Iraniens qui sont ici. Eux, ils aspirent.
Je ne suis pas l'avocat du régime, hein, de toute façon.
J'ai pas dit.
Oui, mais les diasporas, c'est jamais la même chose aussi.
Pourquoi c'est pas la même chose?
Ben. On pense pas pareil quand on est diaspora que quand on est local. Hein. Mais vraiment, on le voit même dans les votes, hein, dans les votes politiques. Mm-hmm. Par exemple, les expatriés français votent majoritairement centre, Macron, voilà.
Non mais les...
Mais si.
Tu l'aimes ton Macron, toi. Hein.
Non mais
la diaspora, moi je fais partie de la diaspora libanaise, si tu veux jouer, si
non,
tu
mais
veux parler de la
oui.
diaspora. Moi je vote pas Macron.
Ah mais d'accord.
Voilà,
mais ce que je veux dire, c'est
attends.
Majoritairement, les diasporas sont plus libérales, choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, non, mais c'est parce que la diaspora, elle a de la famille sur place. Moi, au moment où je te parle, j'ai mon oncle et ma famille qui est sous les bombes. Mon oncle est à 1 km à vol d'oiseau de la banlieue sud de Beyrouth. Quand je l'ai au téléphone, t'entends ce qui se passe derrière.
Je vais te poser cette question. Oui. Tu es chrétien, sunnite,
chrétien maronite, mais libanais avant tout.
Ah, chrétien maronite.
Ouais,
oui.
Mais libanais avant tout.
Oui,
voilà. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, en fait, si tu veux, quand on parle de diaspora, il faut comprendre de quoi. Il y a des gens qui ont des familles sur place. Il y a des gens qui ont eu des morts sur place de la faute du régime. Oui. Je ne justifie pas ce que Trump a fait. Trump, on sait ce qu'il a fait. Il a suivi aveuglément Netanyahou et qu'il devait le tenir, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, dans cette histoire, moi, ce qui m'intéresse, c'est nous, ici, dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on fait, nous ?
Excuse-moi, mais on ne va pas entamer le débat là-dessus, mais qu'on pourra reprendre. Ce n'est pas les phalanges chrétiennes qui ont perpétré les massacres de Samra et Shatila ?
D'accord. Ok, et Damour, c'était qui ?
Pardon ?
Damour, c'était qui ?
Je ne sais pas.
Ah ben moi, je vais vous le dire. Ben, c'était les Yarmouk de Yasser Arafat.
Oui,
non, ah, mais voyez, non, mais voyez les médias ce qu'ils disent. Non, mais juste, c'est intéressant ce que. C'est très intéressant ce que vous dites.
La guerre au Liban a été extrêmement cruelle.
Alors voilà, c'est très intéressant. Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Parce que ça illustre exactement ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que tout le monde a en tête Sabra et Chatila qui sont condamnables, qui sont tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, moi, quand j'étais casque bleu au Liban Sud, il y a Eli Obeika qui devait aller témoigner contre les Israéliens au tribunal international de La Haye, qui a été dézingué en plein Beyrouth. Moi, j'ai entendu l'explosion depuis mon poste de garde à Nakoura. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que tout le monde s'arrête sur Sabra et Chatila. Mais il n'y a pas eu que Sabra et Chatila au Liban. Il y a eu Damour. Il y a eu Damour. Oui. On exécutait des femmes. On exécutait les hommes devant les femmes et les enfants. Et ensuite, on exécutait l'enfant et la femme avec le sourire. Et c'est Damour, D-A-2-M-O-U-R, 1976, me semble-t-il. C'était bien avant Sabra et Chatila. Et au Liban, on ne peut pas parler, si vous voulez, d'événements isolés. Il y a eu la grande réconciliation nationale au Liban. Donc ça, c'est fini. Tout le monde s'est réconcié. Donc on ne va pas remettre, si vous voulez, de l'huile sur le feu. Mais ce que je veux dire, c'est quand on veut parler de ça, il faut parler de tout. C'est pour ça que moi, quand ça a commencé déjà à l'époque du 7 octobre, et quand Israël a commencé à taper Gaza, moi j'ai reçu, en tant que quelqu'un qui est présent, je veux dire, sur les réseaux sociaux, j'ai reçu des injonctions. T'es avec qui ? Non mais les gars, vous pouvez pas. On n'est pas en Ukraine là. Là, on est dans le bourbier du monde. Hein. On est dans une région qui est tellement complexe. J'avais même sorti 3-4 bouquins que j'avais mis sur la table. J'avais fait une vidéo. J'ai dit, hey, les gars, lisez, renseignez-vous, apprenez l'histoire. Et après, commencez à poser des questions. Parce que moi, les trois m'ont tapé sur la gueule. Et les trois ont fait des victimes chez moi. Que ce soit le Palestinien, que ce soit le Syrien, que ce soit l'Israélien. Voilà.
Cher Farid, tu voulais rebondir. Bravo pour ton intervention. T'as vu, je t'ai laissé jusqu'au bout. Hein. Cher Charbel.
Par rapport...
Merci.
Oui. Revenir sur le sujet, j'ai l'impression, pour revenir à l'Iran, et comment elle gère ce conflit. J'ai l'impression du combat de, je ne sais pas si vous en souvenez, contre Forman au Zaïre, qui a tenu 8 rounds, de Mohamed Ali, où Mohamed Ali avait adopté la tactique des coups et de riposte. Coups et riposte. J'ai un petit peu l'impression de voir ça avec l'Iran, où il encaisse les coups et il riposte derrière jusqu'au chaos. Est-ce qu'on va assister au chaos d'Israël et des États-Unis face à l'Iran ? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. En tout cas, nous, en tant que Français, on n'a rien à y faire. On peut être, comme qui dirait, des faiseurs de paix.
Mais sur ce qu'a dit le général de Lavarde, peut-être un mot ?
Rappelle-moi.
Oui.
Là en vidéo, ce qu'a dit.
Il a dit que les scénarios de guerre américains sont plus à la hauteur. Voilà.
Oui, c'est exactement ce que j'ai pu dire. Effectivement, par rapport à cette analogie que je faisais par rapport à un combat de boxe de Foreman et de Mohamed Ali, c'est-à-dire que on a cette impression-là, c'est-à-dire du challenger qui arrive à mettre une raclée au champion du monde. Et effectivement, j'ai cette impression. Et je pense que à l'heure actuelle, ils n'ont pas su décrypter tel qu'il fallait l'Iran. L'Iran, comme
alors,
on l'a dit...
Alors, il faut en voir les conséquences.
L'Iran,
maintenant,
comme on a vu, qui était quand même faisant partie intégrante des BRICS, avec des partenaires qui ne sont pas n'importe qui maintenant, et l'émergence, comme je le disais, enfin l'éveil, même l'éclatement, dans le bon sens du terme, du Sud global face à un Occident en décrépitude totale, même on parle de morale, hein, c'est-à-dire quand Poutine prend la parole... en tant que leader des BRICS, il parle de la décadence de Trump. Lorsque les Iraniens prennent la parole, il parle de l'Occident d'Epstein. Donc derrière, on comprend bien qu'effectivement, c'est une guerre civilisationnelle, mais de valeur. Est-ce que, effectivement, les Américains ont pris la mesure de ces attaques ? J'ai pas, connaissant le... Enfin, imaginant le bonhomme qu'est Trump, j'ai pas trop cette impression. Franchement, il est parti comme ça, comme un vent en guerre, en croyant qu'il avait toutes les cartes en main. Maintenant, c'est l'Iran qui a tous les atouts dans sa manche. Et c'est elle, comme qui dirait, le maître des horloges.
Merci à toi. Jean-Michel, comment ça peut finir ?
Comment ça peut finir ? De toute façon, il y a des enjeux, on l'a dit, énergétiques, le pétrole. Il y a des enjeux régionaux pour Israël. L'Iran est le dernier verrou à faire sauter dans la région. Pas le dernier, peut-être. Ça peut aller plus loin, parce qu'il y a le Pakistan ensuite. Pour assurer son hégémonie régionale, mais pour M. Trump, il s'agit peut-être d'une fenêtre de tir avant la montée en puissance et l'accomplissement de la puissance de la Chine. Donc l'Iran est un verrou à faire sauter, à la fois contre la Russie et contre la Chine. Maintenant, comment ça peut se terminer ? Monsieur Trump y est allé pour un changement de régime, et le changement de régime, il peut aussi bien intervenir à Paris, si tout cela, si on arrive dans la foirade la plus intégrale, qu'aux États-Unis. On a déjà prévu, il y a un certain article de la Constitution américaine qui permet à Monsieur Vance une destitution rapide et Monsieur Vance de prendre le relais. Hein ?
Comment voient les Chinois de cette situation là actuelle ?
Ben, les Chinois, la diplomatie chinoise ne fait pas vraiment de plan publiquement, en tout cas sur la comète. Moi, je dirais ce que je redoute personnellement, c'est que la France soit utilisée, comme je disais tout à l'heure, comme un mouton sacrificiel dans cette histoire, que ça donnerait une porte de sortie aussi bien aux Iraniens, aux Israéliens qu'aux Américains. C'est-à-dire qu'en fait, ça permettrait aux États-Unis, une fois que si un bateau français est coulé ou touché, ça permettrait de dire, eh bien, voilà, Trump va négocier la paix avec l'Iran. Les États-Unis n'ont pas perdu, c'est les Français qui ont perdu, mais les États-Unis n'ont pas perdu, et ça permet d'arrêter ça, parce qu'effectivement, comme disait Farid, il est un peu parti à l'aveuglette dans ce conflit, il pensait que ça allait s'arrêter au bout de 4-5 jours. On sait qu'il a demandé, par le biais de l'Italie, une espèce de négocier un cessez-le-feu, que les Iraniens lui ont dit « t'as commencé la guerre, mais c'est nous qui décidons quand on l'arrête ». Et donc ça serait une porte de sortie, et malheureusement, je pense qu'on va être les dindons de la farce. Et c'est pas la première fois, comme on le disait tout à l'heure, ça a failli nous arriver sous Hollande, en Syrie, et là je pense que Macron étant la personne qu'on connaît jusqu'au boutiste, ça risque pour le coup d'être la première fois qu'un bateau français sera touché au XXIe siècle.
Ah, c'est vrai, le pire. Je voudrais parler aussi du niveau social, et comme j'étais à ma gauche, l'essence à 3 euros le litre, qu'est-ce que tu penses que ça déclencherait dans ce pays ?
Rien. Ça déclenchera rien du tout.
T'es sûr ?
Oui, mais aussi, à part des hashtags, là, que j'ai vu circuler des hashtags, là, balance ton plein, ou je sais pas.
C'est vrai que 2 euros, ça n'a rien déclenché.
Non, ça n'a rien déclenché, là, même à 2,50€, là, on est à 2,54€.
Oui, bon, dans 2-3...
Parce que c'est pour ça que je te dis rien, parce que tu me parles de 3 euros, on est à 2,54€, ça n'a pas déclenché quoi que ce soit pour l'instant. Surtout que l'essence...
Pour l'instant.
Mais surtout que l'essence, Macron, il a un levier, il peut ramener le calme au niveau de l'essence en attendant. Alors, il a dit qu'il allait utiliser les réserves stratégiques, ouais, bien. Sauf que ça veut. Enfin, mais ça c'est flou pour les gens. Les réserves stratégiques, il leur a dit pour jouer sur les prix. Donc, c'est-à-dire pour faire baisser les prix ou pour calmer les prix ou quelque chose comme ça, je sais plus comment il a dit. Alors qu'il y a un truc qui est très simple, hein. Il y a un truc qui est très simple, qui est beaucoup plus simple que ça. C'est on joue sur la TVA. Et il a fait un quoi qu'il en coûte en 2000.
La TVA, elle n'a pas le droit. C'est parce que c'est européen. Si tu veux baisser la TVA, il faut demander à l'Europe si elle l'accepte.
Et la TICPE ?
Ah, ça oui.
Il y a 60%.
Ça peut être oui. Ça peut être oui, mais pas la TVA.
Non, mais d'accord. Mais on a une taxe sur la taxe. Quoi qu'il arrive, tu baisses de 10 points, de 0,10 points.
Ça oui, tu peux.
Sur 45 000 milliards de litres vendus à l'année. Bon, l'État, quand ça augmente de 0,10 points sur la TVA, par exemple, récupère 4,5 milliards. Donc, est-ce que tu crois franchement qu'ils ont envie de baisser ? Mais bien sûr que non. Ils se foutent de la gueule du monde comme ils savent faire d'habitude, et ils t'envoient la belle Maude Bréjean, si tu veux, pour
lui
raconter des conneries sur... sortir sa leçon, si tu veux, sur les plateaux télé. Elle était sur RTL, je crois, ce matin. Et en fait, voilà. Donc, mais il ne se passera rien. Je t'ai dit, Mike, on a quand même réussi à foutre il y a quelques années dans la tête de ce peuple qu'il faut qu'il aille sur Internet télécharger une attestation pour qu'il s'autorise à lui-même une autorisation de sortie, tu vois.
Mais là, ça coûte rien.
Non, mais
alors
ça coûte même psychologiquement.
Litre, ça coûte
non, mais psychologiquement,
chose,
c'était un bac scientifique.
60 milliards au trésor américain s'ils veulent maintenir les prix dans les jours qui viennent.
Non mais peut-être, mais moi je vous dis ce qui se passe ici. Genre,
donc
je sais pas,
même,
je sais pas dans mes compétences.
Toi, tu dis voilà, 3 euros le litre, les gens encaisseront.
Ils bougeront pas.
Il y aura peut-être de.
T'es d'accord, Farid ?
Rappelle-toi de ce que je te dis.
Sincèrement, moi quand tu me parles de est-ce que le peuple va réagir ou pas, enfin on est toujours dans l'espérance effectivement pour que ça puisse un petit peu aller vers le positif. J'ai cette image d'un Le Maire qui disait « on va mettre à genoux la Russie ». Quelques années plus tard, quelle ignorance,
présomption.
C'est d'arrogance, en fait. Hein. Et lorsqu'on voit à quel point on s'est mis à dos quand même un des partenaires maintenant inévitables, incontournables, qu'est la Russie, je me dis franchement,
malgré
c'est
des
pas du tout des visionnaires, ça n'a rien à voir avec...
que l'Iran se bat
avec de la vraie politique.
Malgré combien, 20 ans, 30 ans, 40 ans de sanctions.
Non, mais c'est...
Ce qui est assez extraordinaire.
Non, mais pour revenir à la France, effectivement, on a plutôt l'impression que, avec les politiques qui sont menées, rien n'est fait pour préserver le français. À aucun niveau, bah déjà, on est totalement dépossédé de tous les leviers nationaux qui pourraient effectivement protéger le peuple.
Bah, attends, c'est au niveau européen.
Bah, si, au niveau
La mairie de Paris donne des temps de quechua.
Non mais
c'est vrai, hein.
Sérieusement.
C'est sérieux. On a interrogé un sans-abri et la mairie de Paris donne une tente que je suis
pour parler par exemple à l'indépendance énergétique, il faut savoir au niveau de l'électricité qui a mis en faillite énormément de petits commerces, des boulangeries, etc. avec l'explosion du prix du kilowattheure. On avait l'indépendance totale de l'énergie, on était le fleuron au niveau européen, et à cause de décisions européennes qui nous appartiennent plus, on est totalement dépossédé de cette, on va dire, indépendance énergétique, et on en paye le prix fort à l'heure actuelle.
Vous savez ce qu'ils vont faire ?
Et ça va être la même chose avec le pétrole.
Vous savez ce qu'ils vont dire, les gars de l'État ?
Malheureusement, nos politiques sont là pour nous mettre la tête sous l'eau.
Vous savez ce qu'ils vont dire, les gars de l'État ?
Macron,
ils vont dire, le pétrole est trop cher, ben voilà, rouleur électrique, les gars.
Macron gère le chaos, Mike. Macron gère le chaos. C'est tout. Il gère le chaos.
Il gère le chaos.
Si t'as le maître du logo, c'est le maître du chaos. C'est tout ce qu'il fait.
Tiens, Laurent.
Oui, passer à l'électrique chinois. Effectivement, ce que disait Charbel m'interpelle, parce que je me rappelle de comment il s'appelait le premier ministre de... Le maire du Havre.
Édouard Philippe.
Il avait fait une conférence à l'ESSEC où il expliquait devant les étudiants que, en fait, alors on se rappelle que c'était le premier ministre du Covid, et il expliquait qu'en fait, il suffisait un petit peu de tenir la barre pour le gouvernement, et absolument tout passait en force. Et il avait expliqué le Covid, il avait expliqué tout un tas de crises, les gilets jaunes, et des choses comme ça. Il avait dit, en fait, il suffit de tenir la barre un certain temps, et le peuple finit par se rasseoir et rentrer chez lui. Donc je pense effectivement que de l'essence à 3 euros, ça ne changera pas grand-chose.
Merci à vous quatre pour cette très très belle émission. Laurent Michelon, là, tu restes pour combien de temps en France ?
2-3 jours encore.
Ouais. Encore 2-3 jours ?
Ouais.
Ton livre, montre-nous.
Comprendre la relation Chine-Occident, en auto-édition sur The Book Edition.
Bon, et là, t'as vu, on l'a mis tout de suite là, bam !
Super.
Et des dédicaces, peut-être ?
Pas ce coup-ci, parce que c'est trop court, mais peut-être au début de l'été, oui.
D'accord, tu reviens au début de l'été, du coup ?
Oui, au début de l'été, je reviendrai.
D'accord. À Hong Kong, tout se passe bien ?
Tout va bien.
Il fait beau ?
Il fait pas beau, mais c'est très humide, tout va bien.
Merci à toi, cher Laurent, ça me fait très très plaisir de te revoir, ici en plateau. Jean-Michel Vernochet, le prochain bouquin.
Non, mais il y en a un qui est paru sur l'Iran.
Il y en a même plusieurs, même.
Comprendre la destruction de l'Iran, c'est aux éditions d'Eterna.
Hein, d'accord.
Je reprends la chose de fond.
Un futur livre, peut-être ?
Y en a un qui vient de sortir qui s'appelle Pour en finir avec la démocratie chez TheBookEdition.com.
Ah, BookEdition, ça marche fort quand même, hein,
ouais.
J'ai l'impression.
Au moins, on touche des droits d'auteur.
Oui,
voilà. Ce qui n'est pas le cas avec les autres.
Merci à toi, cher Jean-Michel. Farid Demes Debat. Ah oui, le 4 avril.
Oui, absolument.
Ça. Voilà. Grand avril. Rassemblement.
Voilà, en fait, le grand rassemblement, le 4 avril, qui marque l'anniversaire des 2 ans de la grande marche contre la pédocriminalité. Vous vous souvenez peut-être, c'était cette grande marche de 1500 km à pied que j'avais fait du sud-ouest de la France jusqu'à Bruxelles pour dénoncer la pédocriminalité. C'était 55 villes étapes que je parcourais à pied, une trentaine, quarantaine de kilomètres par jour. Et la singularité de cette grande marche, c'était que j'avais une perche avec un téléphone au bout, un smartphone, et je faisais des lives via TikTok, et je donnais la parole aux victimes. Donc les victimes venaient pour la première fois s'exprimer sur ces lives, et là on marque le deuxième anniversaire, donc ce grand rassemblement. Malgré les affaires Epstein, malgré, on va dire, la situation alarmante, je tiens à répéter ce chiffre, un enfant, toutes les 3 minutes, est agressé sexuellement en France, 160 000 enfants, ça c'est par an, c'est les chiffres de la CIVIS, ça n'a l'air de ne pas choquer plus que ça, à outre mesure, et je suis dépité de voir que ni de gauche ni de droite, il s'empare de ce sujet. Aucun parti politique n'a l'air de s'intéresser à la cause des enfants, puisqu'il suffit juste de mettre le nez dans leur programme politique pour voir à quel point...
Macron s'empare du sujet, mais c'est la cause des adultes plutôt.
Oui, Macron, c'est autre chose. À mon avis, il est le moins bon, bien placé pour parler de lutte contre la pédocriminalité. Mais ça, c'est une autre histoire.
Donc je donne voilà, le 4 avril, 14h, Place de la République.
À Paris, effectivement, soyez nombreux. Mike, tu seras là, d'ailleurs.
Je serai là.
Tu seras présent, et voilà. Charbel aussi.
Et Charbel aussi.
Tout à fait.
Cher Charbel. Mais
écoute, moi, c'est toujours pareil. Donc, les réseaux sociaux, GPTV.
T'aimes bien mes vannes, hein. T'as bien,
et toi, t'es van, ouais,
t'as bien hein, quand même. Hein.
Déjà, sur Bistrot Liberté, c'était pas mal l'audio aussi. Tu l'as rendu fou. Hein. Non, et puis il y a le podcast Charbel sans aucun filtre sur Patreon. Donc, il y a l'épisode numéro 7 qui est sorti justement sur le Proche-Orient, donc une explosion programmée. Et là, il y a le numéro 8 qui est sorti, là, l'épisode 8 sur le nucléaire français, donc la dissuasion nucléaire D'accord. française. De Gaulle a créé la bombe et Macron la brade. Donc, voilà. Donc, une heure de podcast où ça.
Très belle formule.
Voilà.
Merci à vous quatre, vous avez été excellents, vraiment très très belle émission, 5000 personnes en direct, merci beaucoup de votre confiance, voilà, n'oubliez pas d'adhérer au club géopolitique profonde, les plus grands, les meilleurs, les seuls, les uniques, ils sont Laurent Michelon, Jean-Michel Vernochet, le maître du logo, Zé Moreau, Sylvain Ferreira et tous les autres, cliquez sur le lien ci-dessous, la carte arrive, les réductions à foison et puis... Bien entendu, le 27 mars, la grande soirée du 27 mars, vraiment venez comme vous êtes, tiens. Vous cliquez sur le lien ci-dessous, vous verrez tous ceux que vous regardez dans nos émissions, on sera là, il y aura à boire, à manger, il y aura de la chanson, de la musique, voilà, il y aura tout ce que vous voulez, on fera la fête. Tous ensemble, donc cliquez sur le lien ci-dessous, vraiment les places sont limitées, donc faites-le le plus vite possible, merci encore à vous quatre, passez une excellente soirée, on se retrouve là dans 29 minutes TikTok, Mike Borowski, on va décrypter l'actu du jour, allez salut, ciao.
Pardon monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet.
On a aussi tendance à jouer avec le feu.
Google, qui est une création de la CIA.
L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra.
Ravi.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.